Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui bourre les bouffes du Nord avec son soir de gala et qui aime tellement les jeux qu'il vient nous voir de temps en temps, Vincent Deniers. Une grosse tête dont le mari, qui suit la crise ukrainienne, a décidé de la surnommer Ariel Dombas. Ariel Dombas. Une grosse tête qui, depuis qu'elle vient dans l'émission, ne peut plus chanter « La vie ne m'apprend rien ». Yann Folli. Une grosse tête qui brille au cinéma, au théâtre, à la radio et au-dessus du crâne, Gérard Jugnot. Une grosse tête qui joue par le bout du nez au théâtre et qui a la réponse sur le bout de la langue à la radio, François Berléand. Et une grosse tête qui, pour un bon mot, pourrait déclencher une guerre à lui tout seul, Sébastien Thoen.
Mais moi, j'ai reçu des messages très sympathiques là sur Instagram, parce que j'ai Instagram.
Si, si.
Des gens, ouais, c'est cool que tu sois là, je réécoute les grosses têtes depuis que t'es là, c'est formidable, t'es super. Et des gens qui venaient de partout, il y avait Richard Thoen, Joël Thoen, Agnès Thoen, vraiment des gens qui ne se connaissaient pas.
Lucien Thoen,
voilà. Et puis il y a Vincent, je suis content, Vincent.
Ah,
ça fait plaisir. Tu t'appelles?
Non.
Bah si.
Non, mais je n'ai aucun souvenir et aucun projet avec vous, monsieur.
Bon, Vincent, tu arrives à Canal en 2010. Moi, je suis déjà une vedette du LOL.
Oui.
Une école du rire.
Une idole.
Voilà. Tu arrives dans le temple du musical. Le paradis latin de la vanne. Canal Plus, comme on l'appelait à l'époque. Moi, je te vois à la cantoche, tu fais les panna cotta, là. Et puis après, il y a ce MeToo terrible avec Pierre Ménès. Et là, il rejoint, il trahit la chaîne. Il trahit Vincent, il trahit Pascal Praud. Et il rejoint Yann Barthès et son émission hétérophobe. Et depuis, je ne t'ai plus jamais parlé, mais ton spectacle a l'air super.
Ce n'est pas parce que ça s'appelle Théâtre des Bouffes du Nord que c'est un club échangiste.
Qu'est-ce qu'elle dit? Allez, une première citation, et ce sera pour Didier Mercadel, qui habite Bechamp, Meurthe-et-Moselle, qui a dit « J'ai connu un nain qui n'arrivait pas à faire son bonsaï généalogique. »
C'est Coluche.
Non.
Jean-Yann,
non. C'est francophone.
Ah, Franck Gastambide?
Non.
Il y a plein de potes nains, lui. Ah, c'est dingue d'avoir autant de potes nains.
Mais c'est vrai, vous avez remarqué.
Non, mais il y a un nombre de potes nains. Dès qu'il y a un film, il y a un nouveau nain. Non mais tu connais, dans ta vie, Gérard, tu peux connaître un nain, mais t'en connais pas cinq des nains. Ou alors tu les cherches, quoi.
Oui, après tu les cherches.
Qu'est-ce qu'il fait, Gastambide? Il fait une cherche de nains, il y a un chenil de nains.
Mais il a raison, c'est vrai.
Non mais c'est fou. François, il y a un chenil de nains qui existe. Moi je veux savoir, parce que moi j'aimerais bien avoir des potes nains.
Moi je connaissais Roger.
Non, mais...
Roger un nain, oui merci Gérard.
Ah oui, oh.
J'ai connu un nain qui tentait de faire son bonsaï généalogique.
C'est l'arrivée.
Ah, comment vous dites?
L'arrivée.
Non, pas l'arrivée.
Légaré, Pierre Légaré.
Pierre Légaré, bonne réponse de Vincent Deniers.
Il n'est pas arrivé parce qu'il s'était égaré.
Pour Madame Lelièvre, qui habite Palaiseau dans l'Essonne. Bon. Ah non, Monsieur Jugnot. On n'en est plus là quand même.
Non, c'est vachement bien.
Oh, vous êtes,
ça, c'est pas
blague.
Bien.
Allô, mais c'est pas. Allô, mais la blague pas. Pouf. C'est une blague qu'on faisait à 12 ans.
Et oui, moi, j'allais faire une blague encore pire.
Ah oui?
C'est-à-dire, mais elle habite où alors? Si elle habite pas les eaux.
Ah oui, à Garenne, Madame Lelièvre de Garenne.
Ah,
bah,
ah c'est vrai, Garenne.
Mais non, c'est pas vrai.
Ah non, mais souvent, ça tombe bien.
Qui a dit, quand j'étais jeune, j'étais très con, je suis resté très jeune.
Wow.
Sébastien Thoen.
Non.
Mais j'avais pensé.
C'est un humoriste.
Je l'ai jamais dit. Mais
alors, un humoriste, non, mais il fait rire. Alors, est-ce que c'est volontaire, involontaire?
Ah, François Fillon.
Non.
Non, c'est un, c'est un écrivain.
Alors, un écrivain, non.
Un acteur.
Un acteur, oui.
Il a un physique rigolo?
Ah non, il n'a pas un physique rigolo. Attention, il pourrait vous en coûter si vous vous moquez de lui.
Ah, Berninet?
Pardon.
Non, mais
Pierre Ninet.
Mais non, pas Pierre Ninet.
Il a un physique rigolo quand même.
Il n'est pas acteur.
Et qu'est-ce qu'il est rugbyman
Non, il n'est pas rugbyman, mais il est costaud.
Ah, c'est Depardieu.
Ah. Depardieu, non. Un philosophe à sa façon.
Ah, oui. Boudère.
Mais non. Pas...
Mais non.
Non, mais un philosophe à sa façon, vous voyez.
Oui.
Et on se moque de
Jean-Claude
lui.
Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme. Ah. Deuxième bonne réponse de Vincent Denière.
Évidemment.
Aïe, aïe, aïe. Pour Samuel Carvalho, qui habite Versailles, qui a dit « Hitler ne buvait jamais de vin blanc parce que ça rend méchant. »
Ça peut être Pierre Desproges.
Non, Hitler ne buvait jamais de vin blanc parce que ça rendait méchant.
Liane Folie, elle m'a dit « C'est vrai ?»
Je crois qu'il buvait pas, hein.
Pardon ?
Je crois qu'il buvait pas, il était végétarien.
Mais surtout, il était pas méchant. Il avait sa vision du monde.
Bon, c'est quelqu'un qui était ici, qui a dit ça, qui aimait bien, justement, un peu comme
Hitler,
vous.
Hitler, qui aimait bien Hitler.
Bah, non. Pierre Bénichoux.
Bénichoux.
Pierre Bénichoux. Ah bah, bonne réponse de Vincent Denière. C'est encore Pierre Bénichoux. Ah, celle-ci est assez jolie, c'est pour Isabelle Guèze, qui habite Pont-de-Veil, dans l'Ain, qui a dit « Davantage, davantage, avantage, davantage. »
Oh, ouh là là, ça c'est une
actrice. Ah, ça c'est plutôt genre 18e, La Rochefoucauld.
Ah non, pas du tout, non, non.
Non, non.
Non, non, c'est du 20e siècle.
Ouais, c'est une actrice genre un peu chiante, genre Isabelle Huppert.
On adore Isabelle Huppert ici.
J'ai pas dit que je l'aimais pas.
Oui, mais enfin, quand même, faites attention. Et le film est excellent.
La phrase est un peu chiante quand
même. Le film est excellent. C'est une phrase amusante. Écoutez bien. Davantage, davantage, avantage, davantage.
Fanny Ardant ?
Ah non, non, non.
C'est une chanteuse,
c'est
non ?
C'est pas une femme, c'est un homme qui a dit ça.
C'est un homme. Ah, c'est un homme. Pourtant, c'est con comme phrase.
Jean-Louis Trintignant.
Jean-Louis Trintignant, non.
C'est bizarre que ce soit pas une femme. Hein, Liane ?
C'est un poète ?
Un poète. Oh. Alors, poète, le mot est un peu fort, mais il aimait beaucoup jouer avec les mots. Et d'ailleurs, cette
Bobby
phrase...
Bobby Lapointe ?
C'est Bobby Lapointe ! Oh. Bonne réponse de François Berléand. C'est Bobby Lapointe. Une question pour Jimmy Benabès, qui habite Paris 18e. C'est en voyant ce mot à plusieurs reprises dans la presse ce matin que je me suis demandé d'où venait l'origine de ce mot. Et j'ai appris, et peut-être vous le savez-vous déjà, que c'est Auguste Le Breton, un écrivain, qui a lancé ce mot qui n'existait pas avant lui. Il en a même fait plusieurs romans qui commençaient par ce mot. Quel est ce...
Rififi.
Qui a dit Rififi ?
Gérard Jugnot.
Excellente réponse de Gérard Jugnot. Eh oui. Mais
là, ça commence à se sentir que vous donnez les réponses à Gérard
Jugnot. Ouais. Il y a des préférences, il y a de la chouchouterie.
Effectivement, rififi, alors c'est un mot de plus en plus utilisé dans la presse, du rififi dans telle partie, du rififi dans tel club, du rififi en Ukraine. Ce matin, il y a le mot rififi un peu partout dans les journaux.
Mais à une époque, j'ai connu des gens qui avaient écrit une pièce qui s'appelait Rififi, je sais pas quoi.
Et Loulou.
Et ils n'avaient pas le droit de l'utiliser. Ils n'ont pas eu le droit d'utiliser, ils ont appelé ça rififouin. Parce que c'était déposé. C'était...
Ah bah, pourtant, et la bande après, à Rififi aussi.
Il y a eu, depuis des tas de films avec du Rififi chez les hommes de Jules Dassin.
C'était pays. Mais
alors ça veut dire exactement quoi?
Ah, du Rififi.
Une espèce de petite bagarre.
C'est ça, voilà, oui, du Rififi.
Un peu de bordel, quoi.
Alors lui, il a écrit, Auguste Le Breton, du Rififi chez les femmes, c'était le premier, du Rififi à New York, du Rififi au Proche-Orient, du Rififi à Hambourg, du Rififi au Mexique, du Rififi à Barcelone, à Paname, au Cambodge.
Du Rififi est une ordure.
Du Rififi fait du ski.
Du Rififi au Canada, en Argentine. Enfin, écoutez, je vais pas vous donner toute la liste.
Et ça, il l'a déposé, alors.
Pardon ?
Il l'a déposé.
Oui, il l'a déposé parce que ça vient du mot rif au départ.
Ah oui.
Mais le mot rififi n'existait pas.
En fait, il y a une histoire très jolie là-dessus. C'est par rapport à c'est Michel Legrand qui me l'avait raconté. Et ils n'ont jamais, avec Jacques Demy, déposé le nom des parapluies de Cherbourg, qui est devenue la plus grande marque au monde de parapluies, les usines des parapluies de Cherbourg.
Il faut se méfier, évidemment. Il faut très vite penser, dès qu'on a une idée, à la déposer. Ah,
oui. Mais c'est bizarre que Michel Legrand n'ait pas pensé à déposer un truc.
Okay. Ben... Oui,
c'était plutôt un réflexe qu'il avait, je crois.
Vous le connaissiez, chez Vincent ?
Oui, c'est mon ex.
D'accord. Moi, j'aime bien les « il paraît ». Je peux vous dire que non. Il était... Non, non, là-dessus, ils ont été très naïfs. Et un jour, il m'a raconté ça. J'ai trouvé l'histoire très jolie.
Moi, on m'a raconté une histoire que j'adore sur Michel Legrand. Oui. Un jour, il était au festival de Montreux, festival de jazz. Oui. Et dans les rues, il était avec son épouse. Et il dit « Oh là là, mais cette vie est quand même fatigante, cette vie. Toujours dans les hôtels, toujours en tournée, jamais chez soi. » Donc, il se plaint un peu. Puis d'un coup, sa femme dit « Oh, mais... on n'a pas une maison à Montreux ?
Elle est très jolie.
C'est drôle. Enfin, je pense à tous les fans de hip-hop qui nous écoutent. Ils doivent se dire quelle émission formidable.
Alors quand même, Michel Legrand, vous avez de l'admiration pour Michel Legrand.
Michel Legrand, Jean-Claude Duss, qui tu veux, il n'y a pas de souci. Non, je connais. Qu'est-ce qu'il a fait comme musique à part les parapluies de Cherbourg?
Il a
composé de la bossa nova aussi, très pote avec...
Yann, vous pouvez nous chanter les moulins de mon cœur.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles.
Pas trop longtemps parce qu'il y a Ariel qui commence à faire la gueule.
Non, c'était formidable, mais je rebondis sur...
Comment elle a dit c'était formidable?
Elle le pense, sincèrement, je sais qu'elle le pense.
Mais je rebondis sur l'histoire d'inventer un nouveau mot. On a le droit de faire ça.
Ah oui, oui.
Parce que moi, j'ai connu un chien qui s'appelait Rififi.
Ah oui.
C'était un teckel au poil dur. Oui. Mais ça vous rapporte quoi de déposer un mot? On invente un mot. Et puis on le dépose.
Un teckel, vous pouvez le déposer en bas de la porte pour éviter, pour éviter que le froid passe.
Non, mais par exemple...
Moi, j'ai déposé Ruquier, là, il n'y a pas longtemps. Même lui, je peux plus se présenter dans un établissement à la CAF sans que je touche
les
sous.
Les grosses têtes, c'est qui a inventé?
C'est RTL.
Oui, mais c'est qui a inventé ce nom?
Ça appartient à RTL. C'est un monsieur de RTL qui était un directeur de la station à l'époque qui a déposé le titre. Non, ça appartient pas à Philippe Bouvard, par exemple.
Ça,
vous voyez, ça appartient à la station parce que il y avait un directeur ici qui a eu l'idée. Au départ, ça devait s'appeler Les Incollables, pour tout vous dire. Ça avait déjà été pris.
Oui, c'était un jeu.
Exactement. Mm. Et donc, Des Incollables, c'est devenu les grosses têtes.
Mieux, les grosses têtes.
Ah, c'est mieux, ouais, c'est chouette.
Mais ça correspond pas à tout le monde.
Non, moi, j'aurais appelé ça les grosses tantes, mais bon.
Les grosses tantes.
Quand on voit certains castings. Ça va, François?
Les grosses tantes, il a dit.
Mais bon, ça, c'est mon problème.
Ben oui, vous n'aimez personne, monsieur.
C'est pas que j'aime personne, c'est que j'ai envie que l'émission progresse.
Ah oui.
Grâce à vous. Il y a un niveau depuis que je suis là qui est misérable. Et j'aimerais être poussé par mes camarades.
Ben, vous allez voir si votre niveau
Oui, il répond à une question.
En géographie est bon, parce que là, attention, faut être doué en géographie.
Quelle est la capitale de la France?
Non.
C'est facile, c'est Meudon.
Pour pouvoir répondre, Juliette Le Goff a toutes les chances de toucher un chèque RTL. Elle habite Gap, dans les Hautes-Alpes. Et j'imagine que vous suivez, et Ariel va peut-être être privilégiée, puisque son mari est sur tous les fronts, mais vous suivez, j'imagine, le conflit entre la Russie et l'Ukraine.
Bien sûr. Il y a un conflit?
Oui.
Mais non.
Ah si, si, si.
Mais ils ont la même tête. Pourquoi ils s'embrouillent? Moi, je l'aime bien, Poutine, en tout cas. Autant Philippot, moins.
Pourquoi vous aimez bien Poutine?
Je sais pas, c'est physique. Quand il a fait ses photos, là, c'est où, sur les chevaux, là?
Ah oui, oui.
C'est Jean-Philippe Janssen qui a un tableau de lui à la maison, là. Quand il est torse nu sur son cheval, franchement, t'as envie de voter à droite. Même moi, je suis hétéro et un peu de gauche, et j'ai envie de voter à droite quand je le vois.
Alors,
il est magnifique.
Ma question géographique qui concerne l'Ukraine... c'est le nom d'une mer que je vous demande.
La mer Noire.
La mer d'Odessa.
Non, je vous demande cette mer intracontinentale, peu profonde, qui s'étend sur 37 800 km² quand même, bordée à l'ouest et au nord par l'Ukraine, à l'est par la Russie, et au sud, justement, par la presqu'île de Crimée. Et ces deux mers sont séparées, c'est-à-dire elle et la mer Noire, par le détroit de Kerch. Quel est le nom de cette mer?
La mer d'Azov.
La mer d'Azov.
Ah, oui.
Excellente réponse de Gérard Jugnot.
Et Gérard, t'as dormi chez Laurent ou quoi? T'as toutes les réponses depuis tout à l'heure.
Alors, parce que là, j'étais persuadé que personne n'aurait retenu le nom de cette mer, qui est la mer, et effectivement, au bord de laquelle se trouve ce conflit, parce que la mer Noire, c'est un peu plus bas, et ce petit trou qui se trouve à un peu.
Même pas où c'était, d'ailleurs.
Ah ben, c'est la mer d'Azov. Excellente réponse de Gérard Jugnot. À une question politique maintenant pour Maria Ribeiro qui habite Tournus.
Poutine.
Non. Tournus.
Ah, on dit Tournus.
Ah bah évidemment. Bah oui. On dit pas Ruquière.
Bah oui.
Bah il y a un S à la fin.
On dit Pénis.
Parce que nous on est des défendants.
On dit Pénis, on dit pas Pénis.
On dit Anus, on dit pas Anus.
Non, ça dépend.
On est des défendants.
Moi, je connais pas Tournu, pardon.
Mais c'est à côté de chez moi.
Si, parce que c'est la Rhône-Alpes et nous, on est deux Lyonnais.
Ah, c'est en Saône-et-Loire. Oh,
bah c'est oui. En Bourgogne, oui, c'est en Saône-et-Loire, c'est à côté de chez moi.
Tournu, donc.
J'ai grandi à Tournu.
Mais pourquoi il y a un S à la fin de votre Tournu?
Ah, mais vous en posez des questions. Parce que...
Eh ben alors, donc, Madame Ribeiro de Tournu a une chance.
On dit Ribeiro, en revanche.
Et là, c'est Ribeiro, c'est portugais.
Ah oui, ah, vos amis portugais.
Ah, faut pas déconner. Sinon, elle va faire un douvi. Elle va mettre le crépi, elle va mettre l'andouille.
Alors, vous savez que j'ai vérifié parce que Katharina, qui est une amie qui travaille avec moi depuis des années, qui est portugaise, je lui ai demandé justement.
Un douvi ?
Non. Je lui ai dit, mais
bah, y a pas de trou, ça
j'ai une grosse tête qui arrête pas de se moquer des Portugais. Vous, donc, en disant qu'ils sont tous dans le Val-de-Marne. Il m'a dit, mais non, on n'est pas.
Non, il y en a aussi dans le Val-de... Bref. Ils sont tous dans le Val-de-Marne.
Mais non.
Ils sont 3 millions dans le Val-de-Marne.
Mais non.
Ça parle portugais. Ce n'est plus la France, le Val-de-Marne, monsieur. C'est Benfica. Non, mais Saint-Mandé, il n'y a que des Portugais.
Mais non.
Mais si. Mais c'est pas grave, on les aime bien.
Ils ont fait des travaux, ils ont tout remplacé.
Mais ouais, c'est vrai. Et dans le 7e, les concierges aussi. Moi, j'ai plein d'amis portugais.
Et au Portugal aussi.
Et ben pas tant que ça, figure-toi. C'est peut-être que c'est le seul pays où il y a plus de
Français,
d'habitants,
y a des Français maintenant.
À l'étranger que dans leur propre pays.
Il y a beaucoup de retraités.
Beaucoup de retraités français ouais, au Portugal.
Là, c'est pas cher le bacalao. Ouais, c'est vrai que c'est pas cher et c'est joli.
Pour ma question, donc pour même Ribeiro de Tournus.
Ribeiro
de Tournus.
Maria Ribeiro de Tournus. Voilà. Concerne un candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, qui a fait une promesse cette semaine.
Jadot.
C'était sur une autre.
Et Jadot.
Pardon.
J'adore.
Faut prononcer là.
Yannick Jadot, et ben il a dit, je fais une promesse si je suis président de la République.
C'est étonnant déjà, ça, un candidat qui fait une promesse.
Oui, mais celle-là, elle est originale, parce qu'en fait...
Mais il est pénal, comme il sera pas élu.
C'est une promesse qu'il a faite à un auditeur, sur une autre radio, d'ailleurs. Et ce matin-là, il y a un auditeur qui a demandé à Monsieur Jadot quelque chose, et Monsieur Jadot a dit, oui, je vous fais la promesse si je suis président de la République, que je le ferai.
Poser nu.
Non.
Légaliser le cannabis.
Non. Ça n'a rien à voir avec son programme, voyez-vous.
Ah. Ça a à voir avec sa vie privée.
Vie privée, pas tout à fait.
Il va venir aux grosses têtes.
Non, non plus.
Genre courir nu autour de l'Arc de Triomphe.
Ah non, c'est quelque chose qui était une remarque d'un auditeur qui lui reprochait quelque chose.
Sur son hygiène.
Ah non. Non, mais pas loin.
Pas loin.
Sur la sexualité.
De mettre une cravate.
Pardon.
De mettre une cravate.
De mettre une cravate.
Ouais, c'est ça.
Bonne réponse de Gérard Jugnot. Et oui, il ne porte jamais de cravate.
Une cravate en chanvre.
Et
bah oui.
Et il y a un auditeur qui lui a fait le reproche de ne jamais porter de cravate. Et il a dit, si je suis élu président de la République, je porterai une cravate. Je vous propose d'ailleurs d'appeler tout de suite un marchand de cravate pour qu'on sache tout de suite quel genre de cravate on pourrait faire porter à monsieur Jadot. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Ouais.
C'est dans Le Point, d'ailleurs, qu'on retrouve la phrase cette semaine. Si je suis élu président, je porterai une cravate. On va appeler Cravate Avenue à Saint-Denis-les-Bourgs, dans l'Ain.
Cravate comment, ça s'appelle ?
Cravate Avenue, ça s'appelle, à Saint-Denis-les-Bourgs.
Cravate Avenue, bonjour.
Bonjour, madame. Je suis bien à Cravate Avenue à Saint-Denis-les-Bourgs.
Oui, tout à fait.
C'est les grosses têtes qui vous appellent sur RTL. Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Ça a été super vite le canular. Hein. Franchement.
Ah mais c'est pas un canular, on est là pour se renseigner.
Oui, oui.
On vous appelle, je peux vous demander votre prénom, madame ?
Maud.
C'est votre magasin, Cravate Avenue ?
On dit Maud.
Oui, tout à fait.
Eh bien, parfait.
Vous vendez quoi ?
Des cravates.
Beaucoup d'accessoires de mode homme, en fait.
Et voilà. Alors, peut-être avez-vous vu que Yannick Jadot avait promis qu'il porterait une cravate s'il devenait président de la République. Alors d'abord, est-ce que vous avez des cravates vertes dans votre magasin ?
Ah oui, j'en ai.
Ah oui, il y a différents tons de vert possibles ?
Oui, différents tons, oui.
Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme vert, alors ?
En synthétique.
Bah, on a des verts foncés, des verts clairs, des verts un peu flash.
Des verres quoi?
Un peu flash.
Un peu flash.
Ah, des verres flashy.
Vous avez des verres d'aise?
Vous avez des verveines?
Oui, j'aime bien ça, moi, la verveine.
Et en matière, qu'est-ce que vous avez comme matière différente pour vos cravates?
Du naturel.
Bah, écoutez, on a de la soie. On a aussi de la soie tricotée, en tricot.
Ouais.
En laine, en cachemire. Ouais. On a plein de matières différentes.
Combien ça peut me coûter une belle cravate verte en soie pour Monsieur Jadot?
Dans les 35 euros? Ça vous va?
Ah oui, 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 oui. On passera vous voir alors à c'est où Saint-Denis-les-Bourgs?
Saint-Denis-les-Bourgs, c'est à côté de Bourg-en-Bresse, au nord de Lyon.
C'est marrant qu'il y ait un Lyon. Magasin de cravate là, dans un endroit...
En fait, c'est...
On s'y paumait. Enfin,
on porte beaucoup de cravates dans le coin?
Bah écoutez, j'en vends dans la France entière parce que je les expédie.
Ah,
mais
ah.
Effectivement, ça se porte encore.
Ah, bah écoutez, on peut demander un envoi.
Alors voilà, est-ce que vous pouvez.
Bien sûr, bien sûr, ça sera plus simple.
Vous pouvez peut-être donner votre numéro de carte bleue, Laurent.
Écoutez, on va faire un échange. Je vous envoie une montre RTL.
Ah, ce serait super sympa, ça.
Elles valent plus que 35 euros. Et ah, en
vous
échange.
Vous m'envoyez 40 cravates.
Et en échange, vous nous envoyez une cravate.
Eh ben, on peut faire comme ça.
Une belle cravate verte de chez Cravate Avenue. En plus, avec la pub qu'on vous fait là.
C'est sympa même vous... de faire de la pub. Bah c'est gentil. Ouais. On est une petite entreprise française en plus.
C'est même vous qui nous devez de l'argent là maintenant.
Ouais. Alors justement.
Au prix de la pub sur RTL, croyez-moi.
Quand Laurent va raccrocher, c'est la nana de la compta qui va vous parler. Ne raccrochez pas tout de suite.
Mais on passera vous voir. Je me demande d'ailleurs d'où vient l'expression, vous savez-vous, sans jeter un derrière la cravate.
Oula!
Non, bah, je sais pas du tout.
Et la cravate du notaire, vous en avez?
Qu'est-ce que c'est que la cravate du notaire?
C'est quoi la cravate du notaire, vous savez?
Bah, ça vous concerne pas, Ariel.
Pourquoi?
Parce qu'il faut être plus enveloppé.
C'est-à-dire?
Avec vous, ça dérape.
La cravate du notaire, je vous explique, Ariel.
Oui, alors.
C'est le sexe masculin entre les seins féminins. Oui.
Ah bon, mais pourquoi est-ce que ça ne me concernerait pas?
Alors
et ça me plaît beaucoup. Votre mari n'est pas notaire.
Vous n'avez pas une poitrine énorme.
Si, c'est qu'elle est toute fine.
Elle est suffisante,
mais oui.
Croyez-moi. Ah, oui.
Pour votre petite bite, c'est bien suffisant. Bon ben, je crois que là, il est temps de raccrocher Maude.
Ça glisse. Bah
écoutez, merci Maude de m'avoir appelé avec plaisir pour la cravate, il n'y a pas de souci.
On n'aura jamais la cravate, je crois.
Merci,
ça, on vous embrasse.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Ariel Dombal, Liane Folly, Gérard Jugnot, François Berléand, Sébastien Thoen et Vincent Debierre. Ça, Vincent, vous n'êtes pas trop choqué par Monsieur Thoen et ses propos un peu, on va dire...
Un petit peu quoi? Un petit peu polémique?
Un peu polémique.
Il faut que non, je buzz, j'ai pas de métier, j'ai pas d'avenir, j'ai rien. Toi, c'est facile pour toi, t'es blâmé. Non, mais honnêtement, je trouve qu'il y a un super casting aujourd'hui. C'est pas vrai, le public?
Il racole en plus. Non, mais il racole son public maintenant. Bah, faut arrêter.
Non, un super casting.
Non, vous allez parler.
Mais chez vous, vous allez vous faire virer.
Non, mais sérieux, je trouve que voilà, Gérard, Liane, Vincent, François, Ariel et moi surtout.
Ça a de la gueule.
Et le patron Laurent toujours là, je trouve que franchement c'est bien aujourd'hui. Hier c'était à chier. Oh là là, l'autre qui sert à rien, la grosse qui... Enfin bref. La grosse, je parle de Jean-Philippe Janssen. Hein.
Mais il écoute même pas, il sait même pas qui était là hier, il raconte n'importe quoi. Feriez mieux de répondre à la question qui va venir.
Oui.
Vous allez faire moins le fier là-dessus, parce que c'est la question littéraire.
Oui.
Alors là, je compte sur vous, monsieur Berlian.
Hein, qu'est-ce que c'est?
Monsieur Jugnot, monsieur Dedienne aussi, qui a
tous
beaucoup
ceux qui savent lire, quoi.
Voilà, voilà. Pour Claire Bossard, qui habite... Mme Bossard habite dans le Jura, à Arbois. La première question littéraire qui concerne quelqu'un mort il y a 50 ans, pile, à un jour près. Allez, on va pas chicaner.
Ah oui, mais il est pas là, l'autre, là, celui qui répond à toutes les questions.
Il est
Paul
comme
il est
comidé.
Il est malade.
Paul
on lui fait un gros bisou.
Il a le Covid, Paul Elkara.
Oui. Oh, on lui fait un gros bisou, Paul, si tu nous écoutes.
Le Covid et la syphilis.
C'est normal.
Oh. Il a passé le week-end chez Stevie. Et après, il s'étonne, le petit.
Ah, il est
ça vous fait rire, Ariel. Vous n'avez pas honte de rire aux conneries de Toen, Ariel.
Elle s'en fout, elle a déjà chopé, elle.
Alors, il s'agit...
Alors, il est mort il y a 50 ans.
Oui, oui. Pas Stevie, hein. Non, l'auteur, l'écrivain dont il faut retrouver le nom, je vous dis à un jour près, puisqu'il est mort le 28 janvier 1972, on est le 27 janvier, vous savez, vous connaissez RTL, on a toujours une journée d'avance. Mmh. Alors, je vais pas vous donner, évidemment, le titre de son ouvrage le plus connu, ce serait trop facile.
Ah bah, pourquoi pas.
Mais je vais quand même vous donner trois autres romans de cet écrivain dont on célèbre les 50 ans de la disparition. Alors, si je vous dis Barnabo des montagnes, Le rêve de l'escalier, et plus facile le troisième quand même, La fameuse invasion de la Sicile par les ours.
Ah, wow. Ah oui, c'est un Italien, non?
Oui, un
Buzzati,
Italien.
Buzzati, ouais. Dino Buzzati.
Excellent. Oh, oui.
Sans l'autre. Hein. J'arrive à faire encore du cinéma en plus.
Dino Buzzati,
il a
bravo.
Le cas aussi, qui a écrit
alors
le
il
cas
a écrit
aussi.
Le désert des Tartares.
Le désert des Tartares. Ouais.
Très bon truc sur la bouffe.
Le désert des Tartares, c'est évidemment le titre le plus connu. Oui. Vous avez été aidé par Vincent de Dienne.
Non.
Qui a dit un italien.
Et alors, il a trois, oui. Ils sont 25 millions les Italiens.
Oui, mais il avait déjà le nom en tête, mais ça lui revenait pas.
Mais il l'aurait trouvé sans moi.
Non, sérieux, je l'ai trouvé parce que j'aimais bien au collège, j'ai fait italien en langue vivante. Ouais. Je peux raconter ma vie?
Ah oui,
ça n'a aucun intérêt, mais tout le monde le fait. Je peux le faire, moi. Donc, si Bravo le fait, tout le monde se marre. Donc, j'ai fait langue vivante 2 en italien. Et donc, du coup, j'avais une professeure d'italien. Elle nous faisait. Madame de Béchon.
Bon, c'est pas italien.
Très sympa, Madame de Béchon. Et on a fait beaucoup de voyages en Italie. Et on a aussi appris la littérature italienne. Et Dino Buzzati, on lui disait souvent.
Appris la littérature italienne.
Oui, vraiment de A à Z, je sais tout.
On va revenir en France avec une femme, une romancière, dont j'espère vous. Vous vous souvenez le nom? Moi, je l'aimais bien en plus.
Ah, Alessandra Sublet?
Une romancière.
Simone de Beauvoir.
Non, qui a écrit. Non. Alors, un peu plus récente, elle nous a quittés en 2018, cette romancière qui, en plus.
Marie Ginsclark.
Non, qui, en plus, française, qui, en plus, a fait.
Elle est française, Marie Ginsclark.
Oui, oui, mais c'est le pas.
Je suis désolé.
Ah bon, elle est française, Marie Ginsclark.
Oui, je suis désolé.
Elle est française où, Marie
Ginsclark? Elle vient de Tournus.
Mais non! Marie Higgins, la femme d'Higgins dans Magnum.
Oui.
Elle était française.
Mais bien sûr.
Alors là, je vous parle d'une romancière qui, en plus, a donné envie à des tas de téléspectateurs et lecteurs de lire. Ou...
Ah, je sais.
Ouais. Jacqueline Cora.
Ah non.
Non, je sais qui. Régine Desforges.
Oh, Rousse. Ah non, c'est pas Régine Desforges.
La bicyclette bleue.
Quelqu'un qui a publié. Ah oui, ça, je suis sûr. J'ai choisi la question moi-même avec mes petites mains. Alors, je vous donne quelques romans. Mouche-toi, Cléopâtre. La vie exemplaire de Rita Capuchon.
Oh, mais si c'est pour dire n'importe quoi.
Mais non! Mais elle a fait des bandes dessinées, c'est
quoi? Ou encore, Chérie, tu viens pour la photo.
De Bureau? Nicole de Bureau?
Non, Nicole de Bureau, non. Zut, on a encore oublié Madame Freud.
Oh, mais vous êtes défoncé. Hein.
Désolé, mais ça ne se fait pas. Aux lèvres pour que j'ai moins soif.
Vous avez cité un de ses ouvrages qui s'appelle Chérie?
J'ai dit oui, j'ai dit Chérie, tu viens pour la photo.
Ah, parce que non, Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est Fourniret? Donc c'est lequel celui-là, Chérie?
L'écrivain ou la sixième roue du carrosse?
D'accord, c'est l'autre, d'accord.
Maman, je ne veux pas être empereur.
Oh là là,
mais c'est du jeune public.
Elle avait un mari musicien.
Ah, c'est pour ça.
Eh oui, presque aussi connu qu'elle, mais lui dans son domaine.
Macha Meryl, alors?
Non, Macha Meryl, non.
Catherine Pancol?
Ah, Catherine Pancol, non. Et d'ailleurs...
Catherine Laborde?
Je l'aimais beaucoup.
Elle est décédée.
Je l'ai bien connue.
Evelyne Delia?
On rentrait ensemble. Ensemble à Montmartre, elle habitait Montmartre à l'époque et moi aussi, je la ramenais.
Elle est décédée.
Dalida. Après nos émissions, comment vous dites?
Dalida. Non.
Zizi Jean-Mère. Zizi Jean-Mère.
Jamais ramené Dalida à la maison.
Ce serait pas Michou.
Vous l'avez raté.
Gérard.
Ouais. Elle a pas écrit le scénario.
C'est triste. C'est triste comme on disparaît vite dans la mémoire des gens.
Non, mais ce n'est pas un bouquin
que j'ai lu. Il faut déjà y être rentré.
Pardon.
Il n'y a pas un bouquin que j'ai lu, donc je ne sais pas ce que.
Encore une mouche-toi, Cléopâtre.
Ah non.
Est-ce que c'est pas Françoise.
Chandernagor.
Non, Malé-Joris.
Ah non, Françoise Malé-Joris. Non, mais vous avez le prénom, Ariel.
Françoise
Bénidorm.
On tient une Françoise maintenant.
Ah, Françoise Biatch.
Quoi?
Françoise Biatch?
Qui est ça?
Alors, ça, c'est une actrice X. Mais je l'ai lancée dans mon.
Ah, bah écoutez, vous devriez rester là-dessus.
Françoise.
Ah? Bon? Quoi, c'est une cochonne, tu veux dire?
Non. Sur le X, vous devriez rester sur le X.
Françoise Xenakis.
Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah, une question pour Chantal Lambert. Question musicale qui nous permettra d'ailleurs d'écouter ce morceau musical que tout le monde connaît.
Qui fut
joué pour la première fois à Paris lors de l'exposition universelle de 1867.
Ah, la Lambada.
Non. Ce fut un triomphe majeur international, puisque c'était l'exposition universelle, tous les pays du monde étaient là. Plus de 20 rappels, et ensuite on a vendu plus d'un million de partitions dans le monde.
Mais non.
Est-ce que c'est un chant de Noël?
Un chant de Noël, non.
C'est pas le canon de Pachelbel?
Non, mais c'est vrai que pendant les fêtes de fin d'année, on entend souvent ce célèbre air.
C'est pas Vive le Vent?
Vive le Vent, non.
Maréchal, nous voilà?
Ah non.
Ça a été composé.
Moi, je le chante tous les mois.
C'est une composition.
Donc, il y a bien un moment au mois de décembre où je le chante.
Ça fait comment, Maréchal, nous voilà?
Maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France. François, on l'a enchanté ensemble hier. Ouais, il fait genre, il découvre l'autre.
C'est pas Marion, Maréchal, nous voilà.
Marion, Maréchal, nous voilà, évidemment. Devant toi, la sauveur.
C'est une chanson. Bon,
vous parlez, c'est une composition. Composée par un grand musicien connu.
Alors, il y a des paroles qui ont été mises sur cette
air. C'est le Beau Danube Bleu.
C'est le Beau Danube Bleu. Bonne réponse de François Berléand. On l'a, le Beau Danube Bleu, on l'a. Boum, 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 boum.
Moi, je l'ai vu, le Beau Danube, il n'est pas bleu du tout, il est pourri.
Il est pas bleu, il est pas beau.
Non, il est
mais c'est vrai que c'est tellement beau. Mais c'est du Strauss.
Ah, bien sûr, oui. C'est du Strauss.
Mais il y a père et fils.
Ah oui, mais c'est le fils, voilà. Johann Strauss-Fils, qui a composé le Beau Danube Bleu. C'est et vous beau. Pouvez peut-être nous interpréter avec la voix, cher Ariel. Le ticket 22 du vestiaire est demandé. Continuez, Ariel.
Non, mais moi, je trouve que c'est une musique qui vous emporte. Ah, ben, les vagues.
Alors, qui a posé des paroles sur cette musique?
Alors,
ça m'intéresse.
Alors, il y a des paroles qui n'étaient pas très appréciées.
Ah bon?
Danube, si bleu, si beau et si bleu, vous tourbillonnez calmement à travers la vallée et les prairies. Notre Vienne vous salue, votre ruban d'argent lie le pays à la terre et les cœurs heureux battent sur votre belle plage. Mais les paroles n'étaient pas très appréciées.
Et qui
donc,
les avait écrites?
On a très vite abandonné. Ah, vous voulez vraiment le nom du
titre? Certains Rommel.
Non.
Alors, c'était pas Strauss, en tout cas, qui a écrit les paroles, mais je peux vous le retrouver. Bah,
non, mais la musique, bien. Hein, même sans paroles.
L'auteur, poète et parodiste Joseph Weil, un ami d'enfance de Strauss, qui a écrit les premières versions des paroles sur un thème un peu satirique et ironique, mais qui a été pris à la légère et qui, bon, à la maison d'Autriche, on n'a pas aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a très vite supprimé les paroles de cet air qui reste mieux comme ça, vous voyez. Pop, 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 pop.
Ah, vous le vendez bien.
Oui.
Non, Ariel le fait mieux. Vous pouvez me le refaire encore une fois, Ariel?
Non, je vais vous faire les quatre, les derniers ligues de Strauss, le quatrième ligue de Strauss.
Non.
On va mettre des paroles là-dessus. Hein.
Non, mais c'est le quatrième livre de Strauss.
Allez, François, tu nous fais les quatre autres.
Non, mais d'après Strauss, il y a... exquise
d'une grise
lentement la caresse, la promesse du moment, l'ineffable étreinte de nos désirs fous. Tout dit, gardez-moi, puisque je suis à vous.
Mais pardon. Pardon, Ariel. Parce que je suis en train de vérifier, ça n'a aucun rapport avec Strauss.
Non, alors, aucun.
Allez Gérard, tu nous chantes du Beyoncé ?
Non, parce que je la connais tellement, mon arrière.
Maintenant, vous vérifiez tout, maintenant.
Je suis allé vérifier, c'est Franz Léa.
Oui, mais enfin, c'est une valse.
Elle a passé un magasin.
Voilà, c'est une valse, c'est une valse.
Ah, d'accord, enfin bon, si c'est une valse, alors pourquoi pas du François Feldman, tant qu'on y est.
Eh ben oui.
Ah, vous voyez, les valses...
Les valses de Dienne.
Les valses de Dienne.
Oui, maintenant, que deviennent, les valses de Dienne.
Ils sont Sylvie Boulet, elle est François Berléand.
Que devient Vincent de Dienne ? C'est vrai qu'on pourrait faire
oui.
Une très jolie parodie, vous avez raison.
Ah, oui. Oh, que devienne. Les valses de Vienne, dis-moi qu'est-ce qu'elles deviennent.
On peut quitter Vienne puisqu'on parle des rivières et du beau Danube bleu. Ça me fait penser à la Maritza. Peut-être que Sylvie Vartan pourrait chanter le beau Danube bleu.
Ou... bonsoir, bonjour, au revoir. J'arrive de Los Angeles. Ariel, tu es magnifiquement habillée. Je te dis, j'adore tes bottes tout à l'heure. J'adore. Et je suis très heureuse d'être là avec ces messieurs si cultivés.
Tu sous-entends qu'elle est un peu chiante ?
Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que vous vouliez que je chante quoi ?
Oh, parce que vous voulez, moi, ça, ici, on est là pour s'amuser. Hein.
Oui, ben une chanson qu'on aime bien de Sylvie Vincent va choisir.
Le zizi.
En tout, tout, tout. Vous saurez tout sur le zizi, le gras, le faux, le là, le beau, le dur, le mou, qu'un grand coup, le grand touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé. Tout, 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 vous saurez tout, Laurent Ruquier.
Ben voilà, il n'y a qu'à demander.
RTL, le livre du jour.
Alors, le livre du jour s'appelle « Le bougon gentilhomme », c'est le sous-titre biographique consacré à Jean-Pierre Bacri, signé Valérie Benahim et Sandra Freeman. On aura Valérie Benahim dans un instant. Mais j'ai d'abord une question à propos d'un film qui fait partie des premiers films joués par Jean-Pierre Bacri, c'est « Le Grand Pardon ». Pourquoi ? Parce que le film est sorti en 1982, c'est pile l'anniversaire aujourd'hui de la sortie de ce film d'Alexandre Arcadie, avec Roger Hanin, évidemment, Richard Berry, Bernard Giraudot, Gérard Darmon et plus curieusement peut-être Jean-Louis Trintignant. Est-ce que vous vous souvenez dans ce film du rôle de Jean-Louis
Mais il joue le goy
Trintignant qui jouait le commissaire Duché. C'est lui qui disait à Raymond Béthune: je ne vous aime pas Béthune, vous sentez l'huile et j'ai l'odorat délicat.
Mais non.
Oui, c'est Jean-Louis Trintignant qui disait ça dans ce film. Et alors, j'ai appris aujourd'hui, en préparant cette émission, que l'acteur Jean-Louis Trintignant avait accepté de jouer dans le film d'Alexandre Arcadie, Le Grand Pardon, pour une raison très étonnante. Laquelle ?
Il avait été recalé à Rabbi Jacob.
Non.
Il voulait faire son film.
Alors vraiment, la raison pour laquelle Trintignant a dit oui à Arcadie est très étonnante, vous allez voir.
Parce qu'il n'avait pas compris la question.
Non. Alors, je vous aide un peu en situation. Arcadie appelle Trintignant, il se donne rendez-vous. Trintignant a priori envie de dire non. Puis, il rencontre Arcadie et il lui dit oui. Pourquoi ?
Parce qu'il le menace, Arcadie.
Non.
Parce qu'il trouve qu'Arcadie a de beaux yeux bleus.
Ah, on se rapproche.
Ah.
Parce qu'il se ressemble un peu.
Arcadie ressemble à son père.
Il fait ça à son père.
Non, pas à son père.
À son frère.
À sa mère. Effectivement.
À sa mère.
Non. Son grand-père.
Sa grand-mère.
Arcadie ressemble à quelqu'un et c'est ça qui fait dire à Jean-Louis Trintignant oui. Regardez, Trintignant, il a fait quoi avant d'être acteur ?
Il a été pilote automobile.
Exact. Et son...
Maurice Trintignant. Eh ben, il ressemblait à un champion de Formule 1.
Pardon ?
À Jacques X.
Alors, pas Jacques X.
Lafitte.
Le blond.
Exactement.
Ouais, Lafitte.
Alexandre Arcadie ressemblait à Jacques Lafitte. Voilà pourquoi. C'est incroyable. Mais si vous prenez, allez vérifier sur Google ou ailleurs,
prenez
une photo de Jacques Lafitte, une photo d'Alexandre.
Il y a un vrai truc, c'est vrai, ouais.
Et ils se ressemblent, et voilà pourquoi Trintignant aurait dit oui à Alexandre Arcadie pour jouer dans Le Grand Pardon.
Et c'est vrai. Ça, et c'est comme moi, j'ai joué dans Les Tuches parce que Jean-Paul Rouve ressemble à ma nièce. Hein, François ?
Ça tient un peu de choses, vous voyez le cinéma, au fond. Hein.
Oui, c'est bien.
Bonjour Valérie Benahim.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Salut
bonjour
Valérie. Valérie, comment ça va Canal? C'est une bonne ambiance. Hey, je vous manque pas trop.
N'écoutez pas Sébastien Thoen.
Moi, j'adore Valérie, on était collègues.
Valérie Benaim.
Attends, on a rigolé oui. avec Pierre Ménès.
Vous publiez Jean-Pierre Bacri, Le Bougon Gentilhomme. Erder, qui est Sandra Freeman? On vous connaît plus, vous qu'elle.
Oui, alors Sandra est une journaliste avec qui j'ai travaillé à LCI il y a plus de 20 ans maintenant. C'était une de mes camarades au service culture. On ne s'est pas perdu de vue. Et quand j'ai eu envie d'écrire le livre sur Jean-Pierre Bacri, elle connaissait à la fois Jean-Pierre et Agnès Jaoui sur un plan personnel et professionnel. Et je lui ai proposé de se joindre à l'aventure. Elle a dit oui. Et puis voilà.
Alors vous revenez évidemment sur toute la filmographie et évidemment Le Grand Pardon, puisque ça fait partie des premiers films. L'été en pente douce. Mais quel est le point de départ? Est-ce que c'est vraiment Les Meilleurs Copains, le film qui fait le premier carton?
Le premier carton, effectivement, Mes Meilleurs Copains. On commence à voir Jean-Pierre Bacri dans un premier rôle.
C'est un grand bide, ça.
Mais ça n'a pas marché au cinéma.
C'est culte après, en fait.
Non, ça n'a pas super marché. On s'en est rendu compte ensuite quand il a été rediffusé plusieurs fois à la télévision. Et là, on s'est rendu compte à quel point il y avait une palette de comédiens extraordinaires.
Jean-Pierre Darroussin, Philippe Corsan, Gérard Lanvin, Christian Clavier, vous racontez les coulisses de ce tournage. Vous avez enquêté, en revanche, pour ce film, non pas sur Darroussin, mais sur Bacri, en interrogeant les proches.
Oui, en fait, alors évidemment, il était hors de question de faire un livre sans avoir l'autorisation d'Agnès, parce que ça nous semblait évident. Donc on a envoyé une lettre. Ah oui, on a envoyé une lettre à Agnès Jaoui, qui pour elle c'était évidemment compliqué de témoigner, parce que le temps de l'écriture, c'est pas évidemment le temps du deuil. On a fait une trentaine d'interviews de gens pour qui c'était pas évident, hein, il faut le reconnaître, c'était pas évident pour eux, parce que Jean-Pierre était extrêmement présent encore, et c'est ça qui nous a énormément touchés. Ils avaient peur de déplaire à Jean-Pierre encore malgré tout, au-delà de la mort. Et je trouvais que ce lien indéfectible entre eux, avec cet ami-là, était extrêmement émouvant, et on a essayé d'être le plus élégant et le plus proche des vérités de Jean-Pierre possible.
Qui a joué ici avec Jean-Pierre Bacri? Gérard Jugnot? Jamais. François Berléand non plus?
Oui, moi,
ah, si. Dans
Place Vendôme.
Dans Place Vendôme.
Nicole Garcia.
Ah, le film de Nicole Garcia. Et vous, Vincent, vous l'avez rencontré, Bacri, aussi?
On a fait un petit sketch pour la télévision.
Moi, il m'aimait énormément. Mais ça reste en privé, on n'est pas là pour vous déballer des... Il y avait régulièrement des chocolats.
C'était bien de rendre hommage de toute façon à Jean-Pierre Bacri, Le Bougon Gentilhomme, pour tous ceux qui aimaient cet acteur. Eh bien, vous en saurez un peu plus encore grâce à Valérie Benaim et Sandra Freeman. C'est aux éditions L'Archipel et c'était le livre du jour. Merci Valérie Benaim. Une question pour Michel Pérez, qui habite Cheverny dans le Loir-et-Cher.
Que c'est vilain,
Chevernal. Oh.
Heureusement qu'il y a un château, sinon, mais je te jure.
C'est très beau, Cheverny, quand
non,
même.
Non, le château, c'est...
Le Loir-et-Cher est un département qu'on adore.
Ouais.
La chanson de Michel Delpech.
Eh bah, par la chanson, oui.
Bah, oui, on dirait que ça vous gêne hein, de marcher dans la boue, monsieur Thoen. Alors là, je vais vous parler de deux frères, Antoine et Joseph.
Les Bogdanov.
Les frères Limonaire, je vous donne même...
Les frères quoi?
Limonaire.
Oui. Comme l'instrument.
Alors voilà. Ils ont donné leur nom à quoi, les frères Limonade?
À Limonade, c'est une sorte de piano mécanique, voilà. Oui. Avec des cartes perforées qu'on tourne. Ah, qu'ils ont les roms?
Oui.
Mais non.
Quand ils nettoient pas les vitres, ils font ça. On les a vus sur le périph' hier. C'est drôle.
Réponse
à l'orgue de Barbarie.
L'orgue de Barbarie, bonne réponse de Gérard Jugnot et Liane Folie. Le Limonaire, c'est le nom de l'orgue de Barbarie, et c'est ce qu'on appelle dans ces cas-là une sorte d'antonomase, hein, je crois que c'est ça, parce que en fait le nom de famille est devenu le nom de l'instrument.
Comme Frigidaire.
Oui. Oui. Comment appelle-t-on plusieurs furoncles? Ce sera la question.
Oh. Un anthrax.
Oh. Allons, allons.
Un anthrax.
Excellente réponse de Gérard Jugnot. Ouais.
C'est ignoble.
Il sait tout, ce Junior.
Mais non, j'en ai eu un.
Mais ça ressemble à quoi?
Ah, c'est horrible.
Bah, tu vois le visage de Plaza? Tu vois le visage de Plaza? Je multiplie par 5, c'est tout.
C'est un volcan à plusieurs têtes.
Voilà, purulent.
C'est ah, atroce. Plusieurs têtes, alors.
Vous aimez ça, tout ce qui purule, tout.
Ah, non, non.
Ah,
non,
ah si, si, ouais, les pustules.
Je n'aime pas ça, ça m'est arrivé il y a très longtemps, j'avais 10 ans, vous voyez.
En tout cas, l'anthrax, c'est bien un conglomérat de furoncles.
qu'est-ce qui vous prend de poser cette question?
Oh, parce oui,
que,
c'est ça.
Je veux dire, vous avez vu dans quoi?
Parce que, à un moment donné, j'ai vu dans le...
C'est Véran qu'on a un. C'est pour ça qu'on le voit plus à l'écran, là. Ils envoient Darmanin ou Attal.
En tout cas, plusieurs furoncles, ça donne bien un entracte.
Depuis qu'il s'est tapé Bachelot, ça va. Il s'est tapé Bachelot pour avoir des infos. Et en fait, c'est, je crois qu'il est tombé amoureux.
Monsieur oui. Toen. La question suivante concerne Androclès. Voilà. Androclès, c'était un esclave romain. Mais
Spartacus.
Non, c'est pas autant de Spartacus. C'est sous Caligula, Androclès. Alors, sous Caligula, il y avait un esclave romain.
De sous, lui. Sous lui.
Sous lui.
Bah, Jean-Pierre Jansus.
C'est Monsieur Toen, je ne peux pas vous laisser.
C'est François qui me souffle.
Des réponses sur voilà, des camarades, tout. Des amis, même des amis qu'on aime beaucoup. Et vous-même, d'ailleurs, vous aimez bien Jean-Philippe Janssen, donc je vois pas
pourquoi. Mais c'est mon frère, Jean-Philippe.
Alors, donc, un mot plutôt sur Androclès, qui lui a laissé son nom, à évidemment l'histoire antique, à l'histoire romaine, parce que il y a une légende qui s'est créée autour de cet esclave romain.
Légende d'Androclès.
Laquelle?
Une légende sur sa force?
Ah, sur sa force, pas du tout.
Non.
Sur sa faiblesse.
Alors, sur sa faiblesse, non, mais.
Sur sa lâcheté.
Qu'est-ce qu'on faisait des esclaves romains à l'époque?
On les mettait dans les arènes.
Alors,
oui.
Gladiateur.
Mais il se serait pas fait manger par les animaux.
Alors. Il n'a pas été mangé parce qu'il était trop dur.
Mais c'est vrai. Alors là,
c'est un miracle.
Il a fait peur à. Il a
comme un lion, un lion.
Alors, il a mangé le lion.
Alors on est tout près là.
Ah, il y a un lion qui l'a bouffé et le lion a une gastro.
Non.
Il a mordu le lion.
Alors on est dans l'arène, effectivement romaine. Il y a le lion face à cet esclave qui s'appelle Androclès. Et effectivement, le lion ne va rien faire.
Non, parce qu'il est hypnotisé.
Pardon.
Il est hypnotisé.
Non, il est pas.
Il le mange dans la main.
C'est parce que c'est un des premiers chrétiens.
Non.
Il ne sait pas en vers.
L'empereur va gracier Androclès. Il va même faire cadeau du lion à Androclès, qui ensuite le promènera dans toute la ville. En
recevant... le lion est tombé amoureux de lui?
Oui.
Non, mais il y a une raison pour laquelle le lion n'a pas attaqué Androclès.
Il a crié.
Parce qu'il avait les cheveux très longs.
Il a sifflé. Il a chanté. Le Bouddha du bleu. Non,
réfléchissez un petit peu. Pourquoi ce lion, évidemment?
Parce que c'est pas un vrai lion, en fait. C'était un mec déguisé en lion.
Ah non, c'est un vrai lion.
Il est arrivé, il était fatigué par le voyage?
Non.
Il était malade, le lion?
Non. C'est lui qui l'a mis au monde.
Alors non, mais là, ça y est, on sera
pas. Ah, c'est lui qui l'a élevé.
C'était sa nourrice.
Sa femme l'a allaité.
Non.
Il a soigné ce lion avant.
Exactement. Il lui a enlevé une épine de la patte quelques semaines avant, parce qu'il était esclave et il travaillait évidemment en tant qu'esclave au service de ceux à qui le lion appartenait. Et il avait enlevé une épine de la patte du lion.
Et le lion
s'en est souvenu.
Par reconnaissant. Comme c'est joli.
C'est joli, c'est gratifiant.
Je vous raconte de belles histoires avant de vous endormir.
Oui.
Pourquoi on dort
si tôt? Mais ils ne savaient pas les responsables de la reine qu'ils avaient un lien comme ça?
Ah ben non, ils ne savaient pas. En tout cas, le lion a sauvé, a gracié Androclès.
La gratitude du lion.
Ah oui, c'est magnifique.
D'où l'expression enlever une épine du pied.
Exactement. Ah oui, oui.
Et oui, évidemment.
Ah,
non, pas du tout. Mais en tout cas, Androclès a bien été gracié par le lion. Ah, une question pour Florence Benoît qui habite le Canet.
Benoît.
Benoît, si vous préférez. Elle est dans les Alpes-Maritimes, Mme Benoît.
Ah, c'est une belle région, ça vote bien là-bas.
et là, je vais vous parler d'un monsieur qui était chanoine en Bretagne, et qui s'appelait Astralabe. Mais Astralabe, on connaît surtout ses parents. Qui étaient les parents d'Astralabe?
Astrolabe.
Non, Astralabe.
Non, mais les parents s'appelaient Astralabe.
Alors,
non,
on dit Astralabe en français moderne. Mais il s'appelait Astralabe en latin.
Vous voyez. Un laboratoire de test.
Astralabe ou astrologie.
Alors vous parlez de quel siècle?
C'est pas un laboratoire de test.
On est au 12e siècle.
Oh là, au 12e.
Oh là là.
Et alors qu'est-ce que c'est la question?
Pardon, la question c'est qui est le papa et qui est la maman d'Astralabe.
La maman, papa et maman.
Alors est-ce que c'est un fils d'empereur ou de roi?
Pas du tout.
Des médecins, des chercheurs.
En Bretagne. Oui. Ils sont très très connus les parents.
Ah, voilà. Oui, ils sont nobles.
Nobles, non.
Alors ils sont pas très connus.
Non. Est-ce que ce sont des personnages?
Héloïse et Abélard.
Excellente réponse de Gérard Jugnot. Hugo Poulain, qui habite les Touches en Loire-Atlantique, espère un chèque RTL, mais c'est vrai que Gérard Jugnot est tellement en forme aujourd'hui qu'on distribue peu d'argent, mais peut-être on va y arriver avec cette question. Cette question qui concerne quelqu'un mort dans un célèbre fort ou une célèbre citadelle.
À Lamont?
Non.
L'homme au masque de fer.
Non, le fort de Pignerolles.
Waouh, c'est connu.
Alors, on lui avait évidemment quand même accordé des vallées qui s'appelaient Champagne et la Rivière, parce que bon, c'était quand même quelqu'un de très connu qui est mort dans cette forteresse le 23 mars 1680.
C'est Fouquet?
Oui, oui.
Pardon?
C'est Fouquet.
Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ah, okay. C'est Nicolas Fouquet.
Et c'est incroyable parce qu'il meurt et entre-temps, il a le temps d'ouvrir la brasserie sur les champs. Le Fouquet, merci.
Non, vraiment.
Il faut que je le dise pour que vous la compreniez, c'est terrible.
Le Fouquet, ça n'a rien à voir avec Nicolas Fouquet. Tiens, restons à cette époque. Qu'est-ce qu'on appelait, ce sera une question pour Sabrina Monfils, qui habite Carros dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qu'on appelait le tourmenteur du roi à l'époque?
Alors, c'est pas le bouffon?
Non, le dentiste. Le dentiste non plus.
C'est le psy.
Le chirurgien, non, le psy, non.
Le coiffeur, non.
Le confident.
Le confident, le médecin, non.
Le chirurgien esthétique.
Le couturier, le prêtre, non.
Le devin.
Le devin, non. Plus.
Le community manager du roi.
Non, c'est pas le community manager du roi.
Le chef cuisinier.
Non plus.
C'est celui qui lui donnait la météo tous les jours.
Non.
Est-ce que c'était économique?
Économique, non.
Le goûteur.
Non plus.
C'est quelqu'un comme Fouquet.
Non.
Le dealer.
Le tourmenteur du roi.
Est-ce que c'est celui qui lui massait les pieds?
Non.
Est-ce que tourmenteur a vraiment un lien, enfin, premier degré?
Alors, il était le tourmenteur du roi, mais il ne faisait rien au roi, pour tout vous dire.
Mais c'est par rapport aux ragots, aux infos.
Aux ragots, aux infos, non.
C'est quelqu'un qui lui disait tel femme est amoureux.
Vous consommez beaucoup les grosses têtes. Maintenant, on a deux hôtesses pour vous servir pendant les minutes.
Mais oui. Bah,
ce n'est que de l'eau, hein.
Ce n'est que de la tisane.
Je vois arriver des hôtesses avec des tas de verres.
Oui.
J'ai l'impression d'être à Air France.
Sauf qu'avant, il y avait à manger.
Et de la viennoiserie. Bah, il y en a.
Elles vont apporter les plateaux repas. poulet, moi, s'il vous plaît.
Nadine, vous bouffez pas à la maison?
Non, j'ai pas bouffé ni hier soir ni ce matin.
Ben, parce que là, quand même, combien vous avez de croissants et de pain au chocolat devant vous?
Trois.
C'est l'heure du goûter.
Mais j'ai maigri.
C'est l'heure du goûter.
Bah, oui, mais c'est vrai que vous êtes assez filiforme.
Que vous, non.
Non.
Bon alors, mon tourmenteur.
Il allait faire peur aux villageois en disant il va se passer ça sur le roi.
Non, mais c'est vrai que le nom devrait vous aider.
Celui qui annonçait que la dîme n'a pas été perçue.
Non. Il faisait peur aux courtisans.
Ah, pour faire peur, il faisait peur, le tourmenteur. Mais
c'est un bourreau. Un tueur à gages.
Le bourreau.
Alors, le bourreau, c'est-à-dire.
Tueur à gages.
Le bourreau. Pas n'importe quel bourreau.
Ah, bah non, c'est pas n'importe quel bourreau.
C'est le tourmenteur.
C'est pour ça. C'est pour ça que c'est particulier.
Celui des peines capitales.
Justement, pas le bourreau.
Celui des tortures.
C'est le bourreau des cœurs.
Celui qui torturait pour obtenir des informations. Bonne réponse de Gérard Jugnot, aidé par François Berléand. C'était le tortionnaire. C'est celui, on appelait ça, qui donnait la question. C'est-à-dire qu'en fait, on torturait...
Pour avoir les réponses.
Un peu comme moi ici. Je suis votre tourmenteur, voyez-vous, aux uns et aux autres. Le tourmenteur du roi torturait pour obtenir des informations.
Mais alors, ça a disparu quand? Parce que c'est... Non, mais c'est vrai. Parce que...
Il y a le tourmenteur de Macron.
Après Arlette Chabot, ça s'est arrêté. Il y a Élise Lucet qui essaie de reprendre le rôle.
Non, parce qu'il y a eu l'Inquisition, tout ça, mais à la cour de France, il y avait un tourmenteur depuis.
Le tourmenteur du roi était celui, en tout cas, qui torturait. Bonne réponse collective.
Qui est qui? Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL.
Martine est en Seine-Maritime à Yèbleron. Bonjour Martine.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
Salut Martine.
Bonjour.
Martine nous a envoyé, c'est très rare, parce qu'on peut s'inscrire sur Internet, mais de temps en temps, on prend les courriers aussi. Regardez, elle nous a envoyé une belle carte de bonne année. Je me demande, c'est vous, votre fille, qui nous a envoyé une carte, Martine?
Non, c'est moi, je n'ai pas de fille.
Ah, vous n'avez pas de fille, donc c'est vous alors.
Un fils.
En tout cas, vous nous avez envoyé une jolie carte pour nous souhaiter souhaiter la bonne année.
Et des poils pubiens dessus. C'est mignon de coller ça sur une carte. Ça change des chocolats.
Martine, vous allez peut-être partir à la neige. Vous aimez bien partir au sport d'hiver?
J'y suis jamais allé. J'étais à la montagne en été, mais jamais en hiver.
Mais Martine, c'est à la plage plutôt.
Oui.
Il y a de l'écho, Martine. Je ne sais pas où vous êtes chez vous, mais il y a de l'écho.
Ah, je suis chez moi.
Oui, alors peut-être vous êtes dans...
C'est grand chez vous ?
Dans la salle de bain.
Quand même. Ah,
vous êtes dans un château ?
Non, je suis dans la cuisine.
Ah, dans la cuisine. Et c'est pas meublé, manifestement, donc. En tout cas, le groupe Vacances Bleues va vous proposer, chère Martine, de partir à la Plagne pendant une semaine.
Oh là,
Martine à la Plagne.
Oui, pour deux en demi-pension. L'hôtel Belle Plagne, un magnifique hôtel au pied des pistes, vous attend déjà avec son domaine skiable, paradis ski, des chambres à la décoration raffinée, un restaurant panoramique.
Mon école coranique.
L'équipe...
L'équipe... C'est super sympa, là, c'est vraiment sympa. Vraiment.
L'équipe Intersport vous équipera en matériel de qualité. Vacancesbleues.fr pour en savoir plus sur votre séjour. Martine, fais ce qu'il vous reste à faire, parier sur la grosse tête qui, à votre avis, connaît le mieux ceux qui ont fait quelque chose, qui ont fait qui est qui fait quoi, c'est le principe du jeu.
Là.
Il faut avoir lu les journaux, écouter les infos, mais pas vous, eux. Alors, à votre avis.
Se rappeler surtout.
C'est difficile, mais je miserai sur Sébastien Thoen.
Quelle inconsciente.
Martine, c'est sérieux, il y a une semaine à gagner. Hein.
Vous n'aimez pas la neige, donc Martine.
Martine, c'est gentil, et si on gagne, on y va ensemble.
D'accord.
Allez.
Alors commençons par Vincent De Dienne et puis on terminera par monsieur Thoen. Peut-être que si j'arrive à éliminer tous les autres,
c'est pas mal, c'est pas mal.
Tous les autres avant, il n'aura même pas besoin de répondre. On va tout de suite essayer. Par exemple, monsieur De Dienne, qui est Damien Bonnard.
Oh, c'est fou. C'est un concitoyen à moi, il est né en Saône-et-Loire, il est du même village que moi, c'est un acteur français qui est nommé au César pour Les Intranquilles. Je peux vous donner toute sa biographie parce que je le connais
très bien.
Excellente
réponse de Vincent De Dienne. Alors là, c'est pas le plus connu des acteurs, pourtant.
C'est pas le plus connu des acteurs, mais c'est pas le plus mauvais.
Il est né à Tournu?
Non, il est né à... Attends, il est né à... Je pense qu'il est né à Mâcon, mais il vit à Cruzille. Sa mère vit à Cruzille. Voilà. Franchement, personne n'aura jamais été aussi précis à votre jeu.
Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, bravo.
Je mérite une semaine au ski.
Ah ouais, ouais.
Là, c'est chaud pour les fesses de Thoen.
Ça sent pas bon, Martine. Hein,
ouais. Alors,
désolé,
hein.
Alors, attention, allons du côté de Liliane Folly. Liliane, qui est Tessa Worley.
Oh, c'est facile. C'est même Alain Segarra, elle répondrait à ça.
Tessa Worley.
Tessa Worley.
Est-ce que c'est une championne?
Ouais. Alors, mais encore.
Oui, c'est pour les Jeux Olympiques prochains.
Il faut répondre avant Yves Calvi demain matin. Hein,
oui.
Oui, c'est pour les Jeux Olympiques.
Oui, c'est vrai que c'est pour les Jeux Olympiques. Alors, expliquez.
Alors
je vais me toucher les seins, deux secondes, ça va venir.
Ah, parce qu'il faut que vous touchiez les seins pour que ça vienne.
Entre autres.
Ça, alors.
Ouais.
Tu sais ce qu'il te reste à faire, Gérard.
Non, mais elle est.
Tout à l'heure, la cravate du notaire, hein, Liliane. On a raccroché avec la cravate.
Jeux Olympiques,
là, je suis obligé.
Bah, les Jeux Olympiques.
Non, mais elle a été choisie comme être porte-drapeau de la France.
Oui. Mais enfin...
Bah, c'est trop tard, Liliane Folly.
L'été 2024.
Vous êtes éliminée, Liliane.
Elle est skieuse.
Bah, oui, elle est skieuse. Elle a 32 ans. Elle est porte-drapeau au JO de Pékin. Oh. Vous êtes éliminée. Monsieur Junio, pouvez-vous me dire, Junio, qui est Sergio Mattarella?
C'est un coureur automobile.
Sergio Mattarella est le président de la République italienne.
Ah voilà.
Qui laisse...
Il a fait beaucoup de voitures.
Oui.
Qui laisse son poste à un successeur. Il était très populaire. Alors il a très peu de fonctions, hein, parce qu'on
sait c'est très honorifique.
C'est très honorifique en Italie, mais quand même les Italiens l'aimaient bien. Le président italien, il va quitter le pouvoir. Il était en poste depuis 2015. Sergio Mattarella. Ariel Dombal, cher Ariel. Pouvez-vous me dire qui est Vicky Krieps?
Vicky Krieps.
Ou Krieps, si vous préférez.
Krieps. Oui. Eh bien, c'est la nouvelle secrétaire d'État danoise auprès du ministère de l'Agriculture.
C'est une actrice nommée pour les Césars, meilleure actrice de l'année, pour le film de Mathieu Amalric, Serre-moi fort.
Ah.
Monsieur Berléand, c'est à vous, François Berléand. Qui est Valentin Porte, François Berléand.
Oh, alors ça, je le sais, moi.
Valentin Porte, c'est pas un... C'est pas un handballeur?
Oui.
Ah bah alors, voilà.
C'est
le capitaine de l'équipe de
hand. C'est même le capitaine de l'équipe de hand. Bravo, François.
Oui,
Toen qui est Mohamed Salah.
Bah, je sais.
Bah, je sais que j'hésite entre un mec aux attentats, là. Français, ou alors le footballeur de Liverpool.
Voilà.
Alors, égyptien.
Ah, et donc?
Attaquant de Liverpool.
Et oui, mais c'est plutôt la partie égyptienne qui nous intéresse.
Comment ça, c'est la partie égyptienne? Ah, il a fait gagner la CAN! À l'Égypte.
C'est-à-dire?
Il a marqué un but en finale contre. Oui,
c'est donc le.
Le buteur.
Oui, non, pas le buteur.
Le capitaine!
C'est le capitaine de l'équipe! Ouf, Martine! L'Égypte s'est en effet qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant la Côte d'Ivoire. Mohamed Salah, c'est un grand joueur.
Énorme joueur.
Il joue à Liverpool, c'est vrai, mais c'est le capitaine de l'équipe d'Égypte. On revient vers Vincent De Dienne. J'ai trois qualifiés, Martine.
Oh là là, 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 là.
Mais vous avez misé sur Toen, vous avez misé sur Toen. Il faut maintenant.
Pas une question sur le Loir-et-Cher, là.
Il faut que j'élimine, monsieur. Ah, vous pensez que De Dienne connaît que le Loir-et-Cher?
Mais c'était la Saône-et-Loire, en plus.
Allez, difficile. Qui est Yann Barthès.
Alors attention, Vincent De Dienne, pouvez-vous me dire qu'est-ce que je vais lui proposer? Faut que je l'élimine. Qui est Nicolas Mathieu?
Oh, bah, c'est l'auteur de Leurs enfants après eux, de Aux animaux la guerre et d'un nouveau roman qui va sortir bientôt.
Oui, le prix Goncourt 2018 prix avec Leurs enfants après eux. Ouais. Excellente réponse de Vincent De Dienne.
Si, franchement, Martine, si vous m'offrez pas au moins une montre RTL.
Ouais.
Monsieur Berléand, qui est Julien de Normandie.
Si t'aimes la France, c'est
Julien de Normandie.
Oui, Julien.
Et comme son nom l'indique, un Normand.
Il est basque.
Qui fait des pommes.
Vous connaissez pas Julien de Normandie?
Si, mais je ne sais plus.
C'est le ministre de l'agriculture.
Voilà. Ah, bah, c'est pas, il fait des pommes, c'est ce que je disais. Voilà.
Vous êtes éliminé. Et je me tourne maintenant vers Sébastien Toen. Sébastien Toen, qui est Milo Ventimiglia.
C'est Ventimiglia, c'est la ville en Italie à la frontière, là où il y a tous les faux sacs.
Il y en a plus, il y en a plus. C'est défendu.
Oh donc non. C'est la Vénus de Milo qui a été vendue à Ventimiglia. C'est une fausse.
Non,
non, parce que c'est la doublure cascade de Berléand dans Fast and Furious. C'est pas ça? Non, je sais. Alors vraiment, si, c'est l'italien, c'est un italien.
Alors non, il est américain maintenant, hein, Milo Ventimiglia.
Je sais pas du, franchement, je sais pas.
C'est la star du feuilleton This Is Us.
Oh.
Il vient de décrocher son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.
Il n'est pas du tout cette série.
Ah bah oui, mais enfin quand même.
Oh Martine, tu es embêté.
Et Martine a perdu à cause de Vincent De Dienne.
Non, c'est surtout culpabilise maintenant.
Bah, c'est une montre RTL, Martine.
Oui, c'est déjà bien. Mais le plus beau cadeau, c'est de vous avoir eu tous.
Oh, oh. Alors, on se retrouve après les infos de 17h. C'est gentil, Martine.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Vincent De Dienne, Sébastien Toen, Yann Folli, Ariel Dombal, Gérard Jugnot et François Berléand. François Berléand qui est un peu jaloux de Gérard Jugnot. Vous ne reconnaissez pas votre Jugnot de l'époque des choristes?
Bah oui, non, voilà, parce qu'il répondait pas aux questions.
C'est plus le même, hein.
Non, c'est plus le même.
Il brille ici, il brille de façon incroyable. Et d'ailleurs, je pense qu'il va pouvoir répondre à la question suivante, puisque c'est son domaine
Qui est Thierry Lhermitte?
Non, manifestement favori pour Yolande Vasterlin, qui habite Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Qu'est-ce qu'un érythème perniaux?
Oh, voilà. Mais...
Ça, tu dois savoir. C'est presque l'entraque.
Qui gratte.
Pardon.
C'est un truc qui gratte.
Ah non, ça gratte pas l'érythème perniaux, non. Non, non, ça gratte pas.
Est-ce que c'est un papier administratif?
C'est dans le...
Non, c'est une maladie.
C'est du côté du bas-ventre.
Ah non, ça peut être un peu partout, l'érythème perniaux.
C'est ce qu'avait Jean-Luc Reichmann?
Ah,
une tache de vin?
Il vient demain, Jean-Luc Reichmann.
Ah bah, vous l'embrasserez pour moi.
C'est une tache de vin?
Une tache de vin, non, 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 non.
C'est un grain de beauté.
Ah non, c'est moins joli qu'un grain de beauté.
C'est une sorte de plaque rouge.
Il y a des poils dessus?
Ah, il n'y a pas forcément. Non. Ça, c'est un poireau. Alors.
Un poireau.
C'est de l'herpès.
Non, c'est pas de l'herpès, mais c'est vrai que c'est plutôt violacé, voyez-vous.
Ah, c'est des veines quand elles
sucent là. Un suçon, non.
Un hématome.
On fait encore des suçons, ça se fait encore. Ça,
bien sûr.
Bah, oui,
il y a une heure dans les loges.
Moi, j'en fais, là, je vais en faire un peu.
Évidemment. Non, mais il dit ça comme si c'était un truc provincial, carrément. Ouais. Ça se fait encore, les suçons?
À part à Besançon.
Ça dépend.
Mais non, mais il bosse trop, Laurent, il sort plus.
Un suçon, c'est une sorte de marque. On marque son amant.
Ah, ça, c'est terrible de faire un suçon.
Ah oui.
C'est pour se faire en public, il n'y a pas l'émission.
C'est pour se faire voler quand on est adultère.
Ça dépend si c'est sur le gland.
Non, mais c'est vrai que c'est un peu démodé.
Demande des suçons sur le gland, Gérard. T'auras pas d'emmerde.
Mais là, ça n'a rien à voir avec
les. Ah, mais c'est des varices.
l'avarice.
Ah, c'est pas l'avarice, au diable.
Bah, dans le
ah,
nom.
La varicelle.
La varicelle, non, sur tout le corps.
Ah, ça peut être n'importe où sur le corps.
C'est oui. Sur la peau.
Alors sur la peau, oui. Ah oui, puisque je vous ai dit que vous étiez.
Et ça devient violacé.
Eh ben, c'est pas les furoncles encore.
C'est souvent violacé.
Ah. Est-ce que ce n'est pas par hasard juste le fait de devenir tout rouge ou même violet de honte?
Ah, de honte, non.
De froid.
Ah, c'est la couperose,
c'est quand on a froid. Moi, je dirais que ça, c'est la couperose.
Alors, la couperose, non.
Mais c'est quand on a froid, c'est quand on.
La gerçure.
Oui, c'est ça.
Les gerçures. Non, c'est l'alcool.
Alors, pas la gerçure.
Mais quand on se baigne.
Au-dessus, là.
Oui, oui.
Au-dessus de l'Algérie.
Au-dessus de l'Algérie.
Le gel?
Non.
Une engelure.
Une engelure. Bonne réponse de François Berléand.
On est parfois obligé de couper les doigts, il y a trop d'engelures, comme
Arum Tazieff.
Arum Tazieff monte très haut. Et
là, tu parles des alpinistes et tout, oui.
Bah mais
oui,
c'est pas Arum Tazieff à qui on a coupé des doigts, vous confondez.
Ah non, c'est Herzog.
Je suis obligé de tout rectifier.
Elle a inventé la figure.
Arum Tazieff,
c'était à cause d'une très grosse engelure.
Oui, mais c'était pas Arum Tazieff.
Non, Tazieff, c'est lui qui avait couvert le Val-de-Marne, rien à voir.
C'était Maurice Herzog.
Mais ça s'appelle l'érythème
Pernio.
C'est le nom de l'inventeur.
L'érythème Pernio ou engelure. Alors non, ça a été décrit pour la première fois par un monsieur qui s'appelait Ernest Beignet. Et c'est vrai que les engelures peuvent évidemment devenir dangereuses. Il faut très vite consulter.
Ouais, il faut mettre de la graisse de phoque.
Oui. Dès qu'on
c'est-à-dire.
Et alors, attention, parce qu'il y a des terrains familiaux favorables aux engelures. Il faut savoir ça. Ça peut être héréditaire, l'engelure, vous voyez. Donc, méfiez-vous quand même, et invalidant, évidemment, quand l'engelure prend un peu trop de terrain sur votre peau.
Je confonds engelure et frangipane.
Ah ouais?
Je sais pas pourquoi.
Pour René Arbois, qui habite Saint-Loup en Charente-Maritime, je vais vous parler d'un aviateur qui s'appelle Charles Godefroy, et qui a marqué l'histoire.
Un bouillon.
Non. Il a marqué l'histoire de l'aviation, Charles Godefroy.
Ah bah oui.
Pour avoir fait quelque chose de très particulier le 7 août 1919.
Il a fait le premier looping.
Non.
C'était pendant la guerre? Non, c'était après la guerre.
Ah non, 19.
19, c'est après la guerre.
Non, mais il savait pas que c'était fermé, la guerre.
C'était fermé, la guerre.
Ils ont fermé la guerre en 1918.
Ah, la gare, tu voulais
Comment il s'appelait?
On a vu assez d'horaires pendant la gare.
Charles Godefroy. Est-ce que c'est lui qui aurait inventé la petite capsule? Parce qu'avant, il n'y avait rien au-dessus des aviateurs.
Ah oui.
Ils étaient en plein air.
Ah oui.
C'est lui qui aurait inventé le petit toit.
Ah oui, le petit toit pour les aviateurs.
Le véranda.
On a le cockpit.
La cockpit. Véranda. C'est pas le premier qui a atterri sur l'eau.
Il avait des engelures au crâne tellement il faisait froid.
Laurent, c'est pas le premier qui a atterri sur l'eau?
Non.
En haut d'une montagne.
C'est lui qui a inventé de mettre de l'oxygène pour aller très haut?
Non, il est le premier, d'ailleurs, peut-être même le seul à avoir fait ça.
Hein il a sauté d'un avion.
Ah non, c'était spectaculaire, autant vous dire. On est le 7 août 1919.
Il est passé sous l'Arc de Triomphe.
Excellent.
Ah oui, c'est vrai.
Pendant le défilé.
Excellente réponse.
Ah, il était gilet jaune.
c'est vrai.
Non, il n'était pas gilet jaune, mais il est passé sous l'arc. Rendez compte un peu. C'est pas
il
facile.
Avait pas le droit, c'est interdit.
Ah, il n'avait pas le droit, c'était interdit.
Pas gilet jaune non plus, il n'avait pas le droit.
Mais quand même, il était un aviateur expérimenté. Après, il a arrêté l'aviation. Hein. Il a dit, on m'y reprendra pas deux fois. Mais en tout cas,
Est-ce qu'il y a des images qui existent de ça?
À 1919.
Mais ouais, sur Twitter.
Ouais, ouais.
Je suis pas certain, non.
Si, je crois.
Ah oui, qu'on voit l'avion passer sous l'arc de triomphe. En tout cas, il s'agit du dernier vol de Charles Godefroy.
Il est mort ?
C'était à l'occasion du défilé de la victoire qu'il a fait ça.
Ben oui.
Quand même, c'était officiel. Oui. On est sur les Champs-Élysées, le 14 juillet 1919, il y a eu le défilé de la victoire qui a marqué la fin des hostilités. Et les héros de l'air ont pris ça un peu comme une provocation quand lui l'a fait quelques jours plus tard. Mais c'est lors d'une réunion au Fouquet's, tiens, sur les Champs-Élysées, qu'un groupe d'aviateurs a décidé de venger l'affront des Allemands en sélectionnant un aviateur français pour passer sous l'Arc de Triomphe pendant la parade.
Oh, c'était pas dur à faire, non?
C'est tellement joli le 14 juillet. Je crois que ça s'appelle les patrouilles, ceux qui ont bleu, blanc, rouge.
Oui, mais alors lui, il n'a pas fait ça le 14 juillet parce que, pour tout vous dire, celui qui devait faire ça le 14 juillet s'appelait Monsieur Navarre. Et Monsieur Navarre, Jean Navarre, qui avait 12 victoires à son actif, qui était considéré comme un des meilleurs pilotes de chasse, s'est tué le 10 juillet lors du vol d'entraînement.
Oh, ah bon?
Il s'est tué en s'entraînant pour passer sous l'Arc de Triomphe. Triomphe.
Et c'est-tu à l'Arc de Triomphe ou sur un...
Alors, je sais pas où il s'entraînait, mais...
En fait, il faut être bon en rase-motte.
J'en connais qui devraient essayer. En tout cas, bravo à Charles Godefroy qui, lui, est passé sous l'Arc de Triomphe.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
On part pour les Ardennes, Tremblois-les-Rocroix. C'est Mathieu qui habite là-bas, 35 ans. Bonjour Mathieu.
Bonjour Laurent.
Vous avez bien Mathieu.
Ah, vous avez une carie.
Que faites-vous dans la vie Mathieu?
Moi je suis commercial.
Commercial. Ah, dans quel domaine commercial?
Moi je vends tout ce qui va être de l'éclairage public.
Ceinture explosive, tout ça?
Ouais, c'est ça.
Ok, bien bienvenue.
De la cocaïne, du cannabis.
Yes, man! Voilà, c'est ça qu'on veut entendre.
Voilà, c'était spécial pour des dédicaces pour Toen.
Ah, vous aimez bien Sébastien Toen, alors, Mathieu?
Ouais, plutôt, ouais.
Ah, c'est toi?
Plutôt, oui. Plutôt, c'est pas totalement 100%.
Hein. Il aime bien les autres aussi.
Mathieu, vous allez en tout cas partir dans un hôtel, magnifique hôtel, Cozy Places. C'est un nouveau partenaire depuis le début de la semaine, je vous en parle. Pas vous refaire l'article en entier, mais c'est une alliance d'établissements hôteliers privés et indépendants, unis et engagés pour la satisfaction du client. Vous choisirez votre week-end parmi 160 lieux. Il y a 160 hôtels en France, Cozy Places. Allez voir sur cozyplaces.com et vous en saurez plus, Mathieu. Mais pour ça, faut d'abord écouter, évidemment, mes grosses têtes qui, chacune, va vous donner une information. 5 fake news, vous connaissez l'histoire, et une seule vraie info, Mathieu. Vous êtes prêts?
On est prêts.
Alors, on va commencer tout de suite par Gérard Jugnot.
Maltraitance dans les EHPAD, par souci d'économie, la société Orpea aurait remplacé le slogan 5 fruits et légumes par jour par un seul fruit pour 5 légumes.
Sébastien Thoen.
Jean-Pierre Pernaut a déclaré à ne pas fermer la porte à l'idée d'être ministre de Nicolas Dupont-Aignan. Il a même ajouté « J'espère quand même finir par arriver à guérir de ce cancer. »
François Berléand.
C'est confirmé. Emmanuel Macron changera de Premier ministre s'il est réélu. Mais Jean Castex a une porte de sortie. Il remplacera Michel Boujenah dans la publicité pour les huiles Puget.
Vincent Dedienne.
Emmanuel Macron va prendre la parole aujourd'hui pour annoncer aux Français une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, la guerre contre le Covid va bientôt se terminer. La mauvaise, la guerre contre la Russie va bientôt commencer. Et ce seront donc les non-vaccinés qui partiront en première ligne.
Liane Folly.
Primaire populaire à gauche, on saura dimanche si Anne Hidalgo sera derrière Pierre Larouturou, Anna Hagueb-Portory et Charlotte Marchandise.
Et on termine par Ariel Dombal.
Alors, le sous-variant BA2 n'ayant pas suffisamment affolé les hypochondriaques, les professeurs Catherine Hill, Enrique Casalino et Antoine Flao vont annoncer demain l'arrivée d'un sous-variant mortel pour toute personne ayant passé 110 ans et n'étant pas fait vacciner 15 fois.
Alors, qui a dit la vérité, Mathieu?
Bon, alors déjà, Sébastien Thoen, ça va être non.
Non. Thoen, Jean-Pierre Pernaut, vous éliminez. Mais c'est vrai, ouais, qu'il a dit qu'il ne fermait pas la porte à l'idée d'être ministre de Nicolas Dupont-Aignan.
Il aime bien Dupont-Aignan.
Quoi? Oui, ah oui, ah bon, oui, il a vraiment dit, bien sûr.
Carrément. Ensuite, François Berléand, je pense pas non plus.
Ouais, alors, bon, François bon Berléand avec Monsieur Castex dans la publicité des huiles Puget. Je pense, ouais, que c'est raisonnable d'éliminer Berléand. Vous avez raison, Mathieu.
Ouais, je crois aussi.
Monsieur Jugnot non plus.
Monsieur Jugnot, il est un seul fruit pour 5 légumes. Le slogan d'Orpea. Ça aurait pu, mais ça c'est pas
tarder,
ça.
Là, c'est encore, ouais.
Mais c'est pas ça.
Il reste, bah, Liane Folly, est-ce qu'on pourrait répéter? C'est, oui, possible.
Liane, pouvez-vous répéter? Bien pour sûr. Mathieu.
Merci, Mathieu. Primaire populaire à gauche. On saura dimanche si Anne Hidalgo sera derrière Pierre Larouturou, Anna Hagueb-Portory et Charlotte Marchandise.
Bah, ça pourrait être ça. Ouais.
Ça pourrait être ça, mais c'est ça, Mathieu. Faut avoir confiance. Eh oui. Puisque dans cette primaire, et je crois qu'il y a 7 candidats en tout, c'est à partir d'aujourd'hui d'ailleurs que ceux qui se sont inscrits, hein, maintenant c'est trop tard si vous ne vous étiez pas inscrits, mais ceux qui se seraient inscrits vont pouvoir voter. Et c'est vrai que parmi les 7 candidats, il y en a des connus. C'est un peu compliqué parce qu'il y en a des connus qui voulaient pas être dans la liste, comme effectivement Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot. Mais vous avez aussi des candidats un peu moins connus, comme Charlotte Marchandise, Anna Hagueb-Portory et Pierre Larouturou, qui eux sont volontairement candidats à la primaire. Et c'est vrai que ce serait embêtant pour Anne Hidalgo si elle arrivait derrière. Mais c'est possible. Pierre Larouturou, Charlotte Marchandise et Anna Aguet-Porterie. Il y a aussi Christiane Taubira, mais elle est candidate aussi volontaire pour cette
c'est
primaire.
La seule, je crois.
La seule avec ceux que je viens de citer. Mmh. En tout cas, Mathieu,
bravo.
Bravo,
merci
vous avez
beaucoup.
Gagné, Mathieu. Ah, c'est
merci
bien.
Beaucoup.
Ah non, mais on est content pour vous.
Oui. Ah ouais. Bravo.
Vous partez avec... Mathieu, vous partez avec Mme Gonsalves?
Non, il n'y a plus de Mme Gonsalves.
Oh, elle est retournée à Poltou?
Elle est restée dans le 94.
Ah, ça, c'est le bordel.
Ah, c'est ça, vous allez partir avec une nouvelle compagne, alors, Mathieu. Ou pas?
Certainement. On
certainement.
Verra.
Oh, je sens que vous méfiez de qui écoute l'émission cet après-midi.
Oui, d'accord.
Et vous êtes un homme prudent, Mathieu. En tout cas, vous allez avec qui
en
vous
cas,
voulez.
Steve va adorer le week-end.
Le slogan de Cozy Places, c'est se sentir comme chez soi, mais sans votre femme. Pour Thierry Salvaudron, la question suivante. Il habite Villers-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Il y a plus de 2000 ans, à quoi servait le jujubier?
Oh, eh bien, c'est une plante, c'est avec des petits fruits,
oui.
Le jujubier.
Oui, ça c'est vrai, oui, bien jujubes. Sûr.
À calmer les maux de tête.
Vous dites?
Non, mais c'est le jujube, c'est le fruit c'est le jujube.
Le fruit c'est
oui,
le jujube.
C'est, le jujube.
C'est comme ça qu'on m'appelait.
À calmer des douleurs.
Alors, le jujubier ne servait pas à l'époque à calmer des douleurs, mais il a servi dans l'histoire, enfin l'histoire ou la légende, après chacun appréciera comme il le voudra. Je dirais même dans l'histoire.
C'est dans la Bible?
Biblique, exact, monsieur Junior.
Oui. Oui, mais enfin, c'est pas la réponse.
Non, mais
parce que ça va maintenant.
Hein? Alors, maintenant, ça y est, il dit un truc, il a gagné, l'autre.
Est-ce qu'on...
C'est un homme qui dit ça. Oui, bonne réponse, déjà.
Est-ce qu'on s'en servait pour nuire à quelqu'un?
Ah non, le jujubier est dans la Bible. Là, Gérard Jugnot a fait progresser la question d'un grand pas.
Ah, c'est pas l'huile de jojoba dans le fa?
Non.
Est-ce que c'est gras?
Ah, c'est gras, non.
C'est une huile, non.
C'était un onguent. Est-ce que c'est pour la posologie, c'est pour soigner la voix?
Ah, pas du tout.
Est-ce que c'est pour cacher quelque chose?
Est-ce que c'est rouge?
Ah non.
Est-ce que c'est un ornement?
Ah, alors, pas loin,
C'est antiseptique quand t'as des clous dans les mains.
Non, c'est un...
Tu mets un peu de jujubier.
Eh ben, on se rappelle.
Mais oui, je
oui,
sais,
oui,
Laurent.
C'est
pour soigner.
Un cicatrisant.
Ah non, c'est...
Non.
C'est pour soigner.
Non, mais vous étiez tout près.
Eh bien, c'est pour décorer. C'est pour décorer, orner.
C'est pour cacher la ZZ d'Adam.
Oui.
Ah non, c'est pas Adam.
Non, c'est les clous. C'est les clous.
On est bien sur Jésus-Christ, si j'ose dire.
Ah, sur Jésus-Christ.
Ah, c'est...
Ah, la couronne d'épines. C'est pour les épines. La couronne d'épines.
Le jujubier a servi à tresser la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Bonne réponse collective. Et oui, la couronne du Christ était faite avec en jujube, avec effectivement les épines et les feuilles du jujubier. C'est en tout cas ce qui est écrit.
Surtout les épines.
Oui, les rameaux du jujubier aux longues épines ont servi à tresser cette célèbre couronne. Mmh. Et on continue d'ailleurs aux rameaux ou à ça à faire des...
Mais pas avec les épines.
Mais pas avec les épines, non, vous avez raison.
Ou alors dans certains clubs sadomaso.
Oui.
Vincent, vous pourriez faire le Christ, vous avez...
Ah bah, oui. Volontiers. J'ai quoi? Finissez votre phrase, pardon.
Mais pas encore le jujube, mais...
Non, mais j'ai
mais
tout
vous
le reste.
Le physique,
mais
vous
comment
c'est
ça
physique.
Quel physique?
Le physique. Le Christ de Tournu.
Est-ce que... Pour Sylvain Germain, avant la valise, la dernière question du jour. Mais après, il y aura l'invité mystère, la valise RTL.
Ouais.
Sylvain Germain espère encore toucher un chèque RTL. On n'a rien dépensé aujourd'hui.
Et est-ce qu'on serait pas une des meilleures équipes que vous ayez jamais
vues? Je dois dire aujourd'hui. Que la culture aujourd'hui a prévalu.
Ouais. Est-ce que vous pourriez glisser un petit mot à la compta? Est-ce qu'on a augmenté le jour où vous faites pas de chèque pour les
Mais c'est vrai que là, le public est un peu venu, j'allais dire, pour rien. Non,
ben
parce
oui.
que vous, le public s'est régalé, mais
ils
quand
sont...
même. Mais ils espèrent quand même 100 balles. Et peut-être ce sera sur cette question. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que la chaîne de vacances chez les Pagures?
Alors, les Pagures, c'est une tribu?
Non, c'est pas une tribu, les Pagures.
Des animaux? C'est des animaux?
Alors, ce sont des animaux, les Pagures, oui.
La chaîne de vacances.
Ah, c'est oui. les fourmis.
Et qu'est-ce que la chaîne de vacances chez les Pagures?
Ah, ben, bah ils se relaient pour.
C'est une trêve, c'est une trêve. C'est
une trêve, un... non.
Les insectes?
Alors, ce sont pas des insectes, non.
Des poissons?
Des poissons, non, mais on se rapproche.
Des oiseaux?
Ah, des oiseaux,
crustacés.
Non. Des crustacés, oui.
Ah. Oui.
Ah. Alors, voilà. Donc, c'est ça se
la
rapproche
chaîne de
d'une
vacances,
moule?
C'est le moment, la chaîne de reproduction de.
Non.
Quand il y a de la latence, quand
c'est
la
chaîne, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de les pêcher.
Non, mais physiquement, c'est plus proche d'une moule ou d'un bulot?
Alors.
Juste pour savoir.
Non, mais on appelle ça autrement, évidemment.
Ah, les coquilles Saint-Jacques.
Et monsieur Junio devrait, évidemment.
Les bronzer.
Exactement, grâce à ses camarades, trouver plus.
La barrière de corail.
Non, plus facilement ce qu'est.
Les oursins?
Non, pas l'oursin.
Attends, c'est des mollusques ou des crustacés?
Alors, ce sont des crustacés.
Amour, coquillages et crustacés.
Alors, ce sont des crustacés.
Des amandes?
Des amandes, non.
Alors, des crabes.
Ils ont 5 paires de pattes, vous voyez.
Les couteaux?
Les couteaux, non.
Les Bernard l'ermite,
évidemment.
C'est quand ils enlèvent leur coquille et quand ils changent de maison.
Ils changent de coquille, ils changent de maison. C'est ce qu'on appelle la chaîne de vacances. Bonne réponse de Gérard Jugnot.
Bonne réponse de Gérard Jugnot.
Vous avez raison, Berléand, je vais enregistrer le jingle. Ça m'évitera de leur dire à chaque fois.
Mais dites une fois comme ça, dites une fois pour voir. Bonne réponse de François Berléand.
Ah bah tout à l'heure, il a trouvé quelque chose.
Il a trouvé l'heure.
Ah ouais.
Mais les Bernard l'ermite ils sont quand même particuliers, les Bernard l'ermite. Ouais. Ils ont un abdomen mou, asymétrique, en spirale, pour pouvoir se loger dans les coquilles qu'ils abandonnent pour une coquille plus grande quand leur croissance l'exige. Et, ils sont coincés dans leur coquille.
Les SDF.
Oui, et donc là, ils sentent le danger parce qu'ils vont finir par étouffer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un comportement social qu'on appelle la chaîne de vacances.
Ils délogent le plus petit, quoi.
Ils vont se réunir à plusieurs autour d'une coquille vide, adaptée à la croissance du plus gros d'entre eux, et chacun passe ensuite dans la coquille de l'autre, la plus petite reste en vide. Est-ce que vous comprenez bien la chaîne de vacances?
Oui, c'est joli. Hein.
Vous voyez, il y a plusieurs coquilles, plusieurs tailles de Bernard l'ermite ou de pagure, car on dit aussi des pagures, et chacun va essayer sa coquille.
Ah,
c'est assez joli, vous voyez.
Comme des poupées russes.
Mais oui, nous, on est comme des cons, on va au resto, on part aux Maldives en vacances. Ouais. Alors qu'on pourrait avoir l'avis de Bernard l'ermite.
Ils essayent la coquille témoin.
Mais tant que ce n'est pas une coquillette.
Eh bien, merci à nous, madame.
Il y a un dérapage.
Alors là, Ariel, il faut que vous m'expliquiez.
Non, je n'irai pas plus loin. J'ai voulu faire une blague scabreuse, mais...
Qu'est-ce qu'il y a de scabreux dans la coquillette?
Non, je ne vais pas plus loin. Non, mais vous l'aviez dit sur Gérard Jugnot.
Enfin...
Elle veut dire un micro...
Un micro-pénis?
Oui.
Là, en plus, franchement, 2,5 cm, c'est pas un micro-pénis.
Mais Ariel, vous avez vu la coquillette de Gérard Jugnot?
Non, mais c'est vous qui l'avez évoqué.
Pas du tout.
Mais c'est pour ça qu'il répond à toutes les questions.
La valise. La valise RTL, on l'a confiée à Ariel Dombasle, la valise. Oui. Vincent De Dienne, qui vient trop rarement, va donc choisir un numéro, Vincent.
Je peux réfléchir un petit peu?
De 1 à 20.
12.
Le 12. Ariel, notez bien, nous allons appeler Colette Château. Mme Château habite Vaux-en-Velin, dans le Rhône, et on espère évidemment qu'elle a bien noté tout le contenu de la valise. C'est une valise toute jeune, toute neuve.
Une valisette.
Ah oui, c'est une valisette. Attention, il y a quand même 1099 € dedans. Enfin, dedans, je veux dire, pas dedans. Enfin, moi, j'en ai eu pour plus cher dedans. Mais 1099 €. Plus des bons cadeaux. Je ne vais pas vous redonner tout.
Elle va décrocher.
Et ouais, elle va décrocher.
Moi, je rajoute 1 euro pour que ça fasse 1100.
Attention, allô.
Allô.
Est-ce que je suis en présence de Colette Château?
Oui, tout à fait.
Alors, c'est bien vous qui êtes à Vaux-en-Velin, dans le Rhône?
C'est bien moi.
C'est vous.
C'est vous, oui.
Alors, chère Colette Château, est-ce que vous imaginez pourquoi on vous appelle?
J'imagine que c'est la valise.
Mais oui, oui.
Bravo. Vous avez reconnu Ariel Dombasle?
J'ai reconnu Ariel Dombasle, tout à fait.
Eh ben oui, bravo, c'est bien
bravo,
elle.
Bravo. Mais alors justement, est-ce que vous allez connaître le montant?
Eh ben non.
Oh, oh
hey, Colette, qu'est-ce que tu fous? C'est là-dessous, qu'est-ce que t'as branlé?
Quel dommage.
Mais qu'est-ce que vous faites, Colette?
Oh, pensez à moins un.
Eh ben, je n'ai pas écouté la valise hier.
Oh. Aïe. Oui, en plus, hier, on a ajouté deux choses hier. Alors, imaginez.
Un Porsche Cayenne?
Non,
on a...
Il y avait 400 000 euros, Colette.
J'ai complété ma collection. Alors, c'est dommage, j'avais déjà la Porsche.
Ah, ben, ça va, alors.
Non, hier, on a ajouté l'album de Marc Lavoine, un ensemble de crêpières Christelle. Il y avait 1099 € au départ. Faites quoi dans la vie, Colette?
Alors, je travaille dans une grande enseigne de commerciale de grande surface.
Ah, oh bah, vous pouvez dire l'enseigne, hein, allez-y.
Oh, Mammouth? J'ai pas trop envie, non.
Ah, c'est Mammouth.
Elles veulent pas, elles veulent pas.
Vous n'êtes pas content d'eux, en fait.
Moyen.
Non,
mais vous avez raison, Édouard Leclerc, c'est un con.
Ah, il n'y a pas que lui, alors. Il hein. Y a qui l'équipe aujourd'hui?
Ah bah, aujourd'hui, il y a un carrefour d'invités, écoutez.
Alors, dites-moi.
Alors, je sais pas si vous connaissez...
Il y a Julie Leclerc.
Oui.
Viens là-dessous. Salut, Colette, comment tu vas? T'es toujours chez Carrefour? Ils te la mettent bien profond.
Ariel Dombal, vous l'avez reconnue, Ariel.
Oui, tout à fait.
C'est même pas de quoi on parle, Carrefour. Ariel, c'est un truc avec des feux tricolores.
Décalé.
C'est un rond-point.
À côté d'elle...
Et encore... Je sais même pas si elle sait ce que c'est des feux tricolores.
Eh bien, Colette, eh bien, vous êtes bien ingrate, alors qu'on vous a choisi, que vous auriez pu être couronnée.
À côté d'Ariel, François Berléand, connaissez, qui triomphe actuellement au Théâtre Libre, par le bout du nez, voyez-vous.
L'acteur des Frères Lumière, vous vous rappelez?
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, s'il était gentil, François, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, il mettrait deux places pour le théâtre.
Absolument,
vous
madame.
Vous montez à Paris de temps en temps?
Alors, ça peut m'arriver, oui, effectivement.
Hein, mais pas pour François Berléand.
Alors
pour Vincent Deuxième peut-être.
Non, parce qu'il joue avec Antoine Duléry, je vous les conseille dans Par le bout du nez.
Oui, bah ils viennent pas sur Lyon de temps en temps.
Ah bah peut-être qu'ils vont faire une tournée après.
Ah
François.
Bah peut-être à partir de septembre.
À partir de septembre.
Ah bah vous voyez.
Bon, bah voilà, on vous invitera alors.
Vous voulez pas monter vous voulez pas monter à Paris donc Colette alors.
Non, mais je veux bien monter à Paris, qui est une très belle ville, Paris. J'adore Paris.
Ah bah oui, non, sans rire.
L'Arc de Triomphe, il y a un mec même en 19, il est passé au milieu.
Alors, on a Sébastien Thoen, que vous connaissez peut-être.
Oui.
Vous voyez qui c'est à peu près, Sébastien Thoen?
Je
il parle tout le temps.
J'ai regardé effectivement quel était Sébastien... Enfin,
quel était Sébastien Thoen?
Quel était le métier de Sébastien Thoen? Parce que je ne le connaissais pas.
Mais même moi, je ne sais pas.
Il a une page dans le Parisien aujourd'hui, une photo dans le Parisien aujourd'hui.
Ah, oui.
Tout un article en entier. Ils nous disent qu'il va partir bientôt pour le Qatar. On aura des jours de répit, voyez-vous.
Ah, bien.
Qu'est-ce que vous avez...
Là, c'est pour la Coupe du Monde. On va peut-être partir en décembre, la Coupe du Monde de football.
Ah, ben nous aussi, on va y aller.
Franchement, des sketchs sur un chameau, il n'y a que ça de vrai. Donc on fait ça pour Winamax, vous savez, où on fait des
finalement,
sketchs,
je suis pas sûr qu'on va y aller. Alors,
c'est bon, je fais la pub.
Parce qu'on risque d'y rester. Alors,
bah oui, là, ça va se marrer.
Alors, Vincent Dedienne, je sais pas si vous connaissez Vincent Dedienne.
Aussi,
ah, bah
aussi.
Très bien. Yann Folli, vous connaissez Yann Folli.
Bonjour Colette, nous sommes de Lyon, vous êtes à Vaux-en-Velin, c'est ça?
Mais oui,
eh ben Vincent
à côté de Lyon.
Absolument, et on connaît très bien.
Et puis alors celui qui a triomphé aujourd'hui, il a le triomphe modeste, mais quand même, c'est une vraie grosse tête, c'est Gérard Jugnot qui est là aujourd'hui aussi.
Effectivement.
Et qui vous embrasse.
Bonjour Gérard.
Ça vous plaît comme équipe, Colette?
Très belle équipe.
Bah écoutez, en tout cas, Colette, vous avez perdu la valise tout de même.
Oui, c'est dommage.
Malgré mon flatterie, ça ne marchera pas.
Est-ce que j'ai droit à ma montre RTL?
Alors, oui. Les places pour Berléand, elle s'en fout. Mais la montre RTL.
Mais la montre RTL.
Non, je m'en fous pas.
C'est une montre RTL, hein, madame, pas Hermès.
On va vous envoyer une montre RTL et j'ajoute dans la valise, pour ceux que nous appellerons dès demain, un séjour en famille pour visiter l'exposition L'Odyssée sensorielle à la grande galerie de l'évolution du jardin des plantes. Je sais pas si vous voyez cette exposition. C'est plus qu'une exposition, c'est une expérience immersive inédite qui est proposée au public.
C'est Mélenchon?
Non. Ben, c'est un peu cette méthode, effectivement. Le muséum offre aux visiteurs la possibilité de devenir un explorateur doté de perceptions sensorielles accrues. Vous allez au jardin des plantes, dans la grande galerie de l'évolution, et votre vue, votre ouïe, votre odorat vont vous rapprocher des espèces vivantes, le temps d'un voyage incroyable.
Comme Nicolas Hulot?
À travers 8 écosystèmes.
C'est que ça va sentir l'étable, quoi.
Mais c'est une expérience incroyable, je vous jure. Puis attention, on offre une nuit à l'hôtel Monge, 4 étoiles, à côté du Jardin des Plantes. Mmh. 4 places pour l'exposition.
Ah ouais.
Et un dîner en famille au restaurant Les Arènes, qui est tout proche du Jardin des Plantes.
Absolument.
Alors notez bien, dans la valise RTL, une visite à l'exposition L'Odyssée sensorielle de la Grande Galerie du Jardin des Plantes.
Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL.
Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez au Jardin des Plantes de temps en temps ?
Oui, je vous dis pas de quel côté je suis.
Ah, comment ça ?
Mais je
suis sûr que vous aimez visiter les musées, les expositions. C'est votre genre, tout de même.
Oui, on m'a aussi beaucoup visité.
Alors, attention, je vous laisse aux mains de mes camarades grosses têtes.
Vous êtes un homme ?
Oui.
Ah, ouais, bah, oui, il faut savoir, déjà. Oui.
Ça commence bien, monsieur Berléand.
Ah, bah, j'ai une bonne
c'est
réponse.
C'est votre première bonne réponse. Oui.
Tiens. J'ai trouvé.
Invité mystère.
Sébastien Toen propose Vincent McDoom.
On m'a souvent visité, c'est pas lui ? Ah, Magloire, pardon, il a raison, hein, au premier rang. Là.
Non.
J'arrive, Magloire.
Quelle honte. Avec ma voix, François, en plus. Il y a des choses comme ça.
Invité mystère, en tout cas, bienvenue à vous.
Oui. Merci.
Est-ce que la musique vous plaît ?
Elle m'a plu à une époque de ma vie dans mon métier.
Êtes-vous musicien ?
Pas vraiment.
Vous,
comment
alors, est-ce que si vous allez donc aller au Jardin des Plantes, à la Galerie de l'Évolution, est-ce que vous avez des enfants ?
Oui.
Combien d'enfants vous avez ?
Trois.
Est-ce
Trois
qu'on enfants. Peut avoir leur prénom ?
Ah non. Oula.
Est-ce que vos enfants sont aussi connus que vous, si vous l'êtes ?
Oui.
Est-ce qu'on peut avoir votre adresse ?
On peut dire deux enfants connus, c'est ça ?
Oui, le troisième a 14 ans.
Voilà. Deux enfants connus, et même très connus pour l'un d'entre eux, en tout cas. Très très connus, on est d'accord.
Plus connus que vous ?
Oui.
Oh, la honte ! Non. Moi, franchement, je déshérite le gamin.
Voici un premier indice musical.
Je voudrais passer le pont de l'autre côté de Hong Kong. Ton printemps me répond par-dessus la muraille. China Song, il y a des milliers d'années que nos yeux sont bridés.
Gilbert Bécaud nous sert de premier indice. C'est vous qui avez écrit cette chanson pour Gilbert Bécaud, n'est-ce pas ?
Exactement.
Co-écrit d'ailleurs, pour être précis, c'est ça ?
Co-écrit avec Pierre Delanoë.
Invité mystère, est-ce qu'il nous arrive de vous voir sur des écrans ?
Il vous est arrivé de me voir, je me fais plus rare sur les écrans.
Est-ce que vous êtes parfois invité à la radio ?
Oui.
Vous avez écrit d'autres chansons de Gilbert Bécaud ?
Pas de Gilbert Bécaud, mais j'ai écrit beaucoup d'autres chansons.
Est-ce que vous voyez de manière fréquente à la radio ? Enfin, vous entendez ?
Oui.
Est-ce que vous avez écrit pour la...
Vous êtes un chroniqueur radio ?
Oui.
Voici un deuxième indice musical. Ah, je ne suis pas certain que vous ayez reconnu la chanteuse, invité mystère.
Si, j'ai reconnu la chanson. Enfin, j'ai reconnu la chanson et ça me rappelle des tweets que vous m'avez envoyés, Laurent.
Et oui, elle s'appelle Elena Paparizou, la chanteuse, et elle a gagné l'Eurovision en 2005. Voilà un indice supplémentaire.
Ah. C'est vous qui avez écrit la chanson ?
Non.
Vous avez écrit une chanson pour l'Eurovision ?
Non.
Vous l'avez niqué ? Non, mais on va y arriver à un moment.
On va aider mes camarades. Cette année-là, vous commentiez le concours Eurovision de la chanson.
Ah,
voilà.
D'accord.
Ah, bah c'est facile.
Voici encore un indice. C'est l'hymne de l'AS Monaco parce que vous êtes fan de ce club de Monaco de football.
Oui, absolument.
C'est vrai ?
Eh oui, mais ce n'est pas Jean-Pierre Foucault comme vous le proposez.
Ah, ça serait l'OM sinon.
Sébastien Toen, Ariel Dombal pense à Patrick Sébastien. Êtes-vous Patrick Sébastien ? Non plus.
Vous êtes fan de l'AS Monaco ? Mais pourquoi ?
Mais Patrick Sébastien, il n'a pas écrit.
Là, il est sous là-bas ?
Non, c'est historique, c'est enfantin.
Vincent De Dienne vous a identifié.
Ah, évidemment.
Bravo, Vincent.
Ah là là.
Vous ne dites rien.
Ah non, mais c'est j'ai qui, que des mots d'amour à dire.
Alors attention, voilà déjà une première grosse tête oh là qui là. Vous a reconnu.
Ah oui, est-ce que vous avez travaillé avec Fogiel ?
Oui.
Mais attends, mais si.
Écoutez, tombe bien, d'ailleurs, on va écouter tout de suite un indice qui va vous dire même dans quelle émission c'était.
On ne peut pas plaire à tout le monde, on n'est pas parfait, comme disait Bossuet, c'est déjà beau de se plaire à soi. Quand je pousse ma note, il y a les chiens qui grondent, mais moi, j'adore entendre ma voix. Et zut pour ceux qui ne pensent pas comme moi. Et voilà.
On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est Georges qui chantait ce titre incroyable. Sébastien Thoen vous a reconnu, ça y est, c'est fait. Gérard Jugnot aussi. Ariel Dombal aussi.
Oh, c'est cool d'avoir Gilbert Collard.
Il manque plus que Berléand et Liane Folly.
Voilà, moi, je suis naze.
Aïe.
On finira ensemble, je te le dis, François.
Oui. C'est évident.
Je dois bien, mon amour.
Voilà. Je vais aider Liane Folly avec l'indice suivant.
J'ai bien compris.
Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Il n'y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'on m'embrasse sur les lèvres, pas comme une enfant.
Alors, je crois que c'est ça.
Il
n'y
a pas que les grands qui rêvent.
Bravo, Liane Folly, vous avez identifié l'invité mystère grâce à cette chanson reprise par Juliette Armanet. Monsieur Berléand me propose un nom, c'est votre dernier... bravo, François Berléand.
Quel talent, François.
Quelqu'un a soufflé.
Bien sûr.
À votre tête, mais je vous... Écoutez, on se connaît pas depuis longtemps, monsieur Berléand, mais à votre œil égrillard, j'ai tout de suite deviné quand vous avez refilé le nom.
Oui, il est gentil, Sébastien.
Notre invité mystère, c'est donc...
Guy Carlier
qui nous rejoint. Guy Carlier était bien notre invité mystère. Il est à l'affiche du Théâtre des Mathurins. Théâtre des Mathurins qui l'accueille les samedis et dimanches pour l'instant, mais peut-être il y aura d'autres jours bientôt qui nous permettront de venir vous applaudir. Parce que c'est pas facile quand même le week-end pour certains, monsieur Carlier. Il faut remettre des jours en plus quand même.
Oui, effectivement, mais vous savez, le dimanche après-midi à 17h, les heures blanches, où on s'ennuie toujours, c'est bien de venir.
Tu sors de chez Drucker, t'as envie de picoler. C'est pas si mal, ce qu'on aurait.
Il y avait que les dimanches où... Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'était les dimanches soirs pendant un moment.
Oui.
Exact.
Et il n'y avait que ces dimanches-là qui ne me foutaient pas le cafard. Parce que c'est vrai que le soir, il y avait la chronique de Guy.
Et c'est pour ça que Marco a réussi. Je ne voulais pas faire de la télé compte tenu de mon image. Et Marco m'a dit, j'aimerais bien un truc transgressif, un peu de dimanche en plus, quoi. Tu vois, le moment où les femmes font le bruit avec les bols dans la cuisine et tout ça, où c'est vraiment...
Bon, au lit
demain, il y a école.
Dans la cuisine.
Oui, elle prépare le petit déjeuner du lendemain matin. C'est terrible, ce moment-là.
Surtout Ariel, ouais.
Bah, oui.
Non, mais elle prépare quoi? De la bouillie?
C'est un nouveau spectacle que propose Guy Carlier au Théâtre des Mathurins, écrit par Guy Carlier et François Rollin. Et vous dites même que François Rollin a été un déclencheur pour ce spectacle.
Oui, c'est lui qui fait basculer le spectacle. Je ne vais pas raconter le coup de théâtre au milieu du spectacle qui fait que ce dernier bascule complètement d'un pessimisme, on va dire, assez désespéré, si on peut dire, dans sa première partie, à un optimisme débridé après le coup de théâtre.
Le spectacle n'a pas de titre, mais il y a un sous-titre quand même. On pleure un peu, on rit beaucoup et on chante Résiste avec les vaches. Alors, on pleure un peu, on rit beaucoup, ça je veux bien comprendre, mais on chante Résiste avec les vaches.
Quelqu'un dans cette assemblée connaît ce rituel, c'est Vincent de Dienne. C'est un rituel qu'a institué mon fils, le petit. J'ai une maison à la campagne et un jour, on arrivait au hameau. Il y a des vaches qui étaient près de la route, donc on a arrêté la voiture, il avait envie de les voir, et à ce moment-là, sur la playlist de la voiture, il y avait la chanson Résiste de France Gall. Et donc il a ouvert la fenêtre, il a tendu le poing aux vaches, comme ça, en signe d'insoumission, il a chanté Résiste, et c'est devenu un rituel, et tous les gens qui viennent à la maison chantent Résiste aux vaches. Et donc, De Dienne est venu un jour, et il a chanté Résiste avec François
Rollin.
C'est ce que j'ai vu de plus gai dans ma vie, de plus joyeux.
Non, mais pas de c'est plus un bel hommage pour France Gall.
Oui.
Et François qui gueulait après les vaches en disant « Mais vous n'allez pas rester là comme des connes, rebellez-vous !» Et puis d'un coup, on a mis Résiste dans l'autoradio et on a hurlé Résiste.
Mais surtout, le truc, c'est qu'on passe avant à la boucherie de Saint-Père et François Rollin tenait le roast beef, il a ouvert l'emballage et il a dit aux vaches « Alors les filles, on se demandait où était passée Nicole, elle a pas chanté Résiste la semaine dernière, bah voilà. »
Alors il faut expliquer quand même que comme il y a Gainsbourg, où il y a eu Gainsbourg et Gainsbourg, ou Mr. Renault, Mr. Renard, il y a deux Guy Carrier, c'est aussi un peu ça que vous démontrez dans ce spectacle.
Il n'y en a plus qu'un, il y en a un qui est mort et il reste que le Guitou dont personne ne s'était jamais occupé.
Alors, Carl est mort et Guitou est là avec nous aujourd'hui, c'est ça ?
Absolument.
Alors Carl, c'était qui Carl ?
Carl, c'est le diminutif de Carlier, c'est comme ça qu'on m'appelait à l'école quand je suis devenu, quand j'ai commencé à faire rire mes potes en étant odieux, en transgressant. Et c'est lui qui a pris le pouvoir dans les deux Carl, les deux Guitou.
Carl et Guitou réunis sur scène, parce que vous ne faites qu'un tout de même, Guy Carlier.
Bah, j'ai chassé Carl. Hein,
vous dites plus de méchanceté.
Si.
Ah, quand même.
Si, mais je les assume.
C'est pas pareil.
Oui, je les assume. C'est-à-dire que c'est pas pour être méchant, c'est pour s'amuser.
Moi, c'est l'inverse. Moi, je vais pas m'amuser, je vais juste être méchant. Mais moi, je suis pas connu, donc j'ai pas d'emmerde.
Guy Carlier au théâtre des Mathuras. Vous l'avez vu déjà, Vincent?
Non, non, je vais me précipiter. Dès que j'ai fini, on joue en même temps.
C'est ça,
dès que j'ai fini de jouer, je vais m'y précipiter.
Le samedi à 19h, le dimanche à 17h au théâtre des Mathuras. Je me dois d'expliquer quand même quelques indices. D'abord sur les enfants, quand même. Faut rappeler qu'effectivement, vous avez, alors, Carl, finalement, a donné Carlito, au fond, quelque part.
C'est ça.
Puisque McFly et Carlito, le célèbre duo. Alors, vous n'avez pas fait les deux, hein. McFly, il n'est pas de vous, hein.
Non, non, non.
Enfin, pas officiellement, en tout cas.
Non, c'est son copain d'école.
Mais il a aussi un autre fils, il s'appelle Stéphane, qui est un écrivain génial, qui fait des romans.
Stéphane Carlier,
alors. Extrêmement drôle, ouais.
Voilà. Et Guy Carlier, évidemment, est parolier, auteur de chansons. C'est ce qui a aidé Yann Folli à l'identifier grâce, évidemment, il n'y a pas que les grands qui rêvent. Il y a eu une chanson pour Beko. Je n'avais pas remis l'indice de Johnny Hallyday, mais vous lui aviez écrit aussi « Ce qui ne tue pas nous rend plus fort ». Ça reste vrai ?
Ça reste vrai, et c'était du Nietzsche, et il a été surpris quand il a appris que c'était du Nietzsche. Et... il était heureux.
Guy Carlier sur scène, Courrézy, c'est le week-end, comme je vous l'ai dit, samedi et dimanche, mais il y aura d'autres jours, peut-être pour les semaines et les mois qui viennent. Vous êtes heureux sur scène ?
Oui, je suis très heureux sur scène. Les gens sont très heureux parce que Madame Télérama a été gentille avec moi, et je sais beaucoup mieux que la façon dont j'en parle, mais je suis très nul dans ce domaine-là. Donc, faites confiance à Télérama.
Théâtre des Mathurins, Guy Carlier, à partir du 8 janvier, depuis le 8 janvier, mis en scène et écrit aussi par François Rollin. Merci Guy Carlier.